Cette semaine sur InPower, j'ai l'honneur d'accueillir Louane. Incontestablement l'une des plus grandes artistes de sa génération, Louane est à la fois chanteuse et actrice, tenant notamment le premier rôle dans le film La Famille Bélier et venant tout juste de sortir son quatrième album, Sentiment. Mais derrière ce conte de fées apparent, Louane traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa vie, le décès de ses parents, la perte de repères, la dépression. En parallèle, Louane doit aussi faire face au harcèlement scolaire et aux troubles alimentaires, ne sachant comment faire face à cette colère et à cette haine. Louane nous partage dans cet épisode comment elle a réellement vécu son succès ces dernières années, ce qui l'a aidé à se reconstruire et surtout, ce qui l'aide aujourd'hui à s'épanouir. Si vous appréciez écouter ce podcast, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce ou 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et de laisser un petit avis, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Louane. Salut Louane !
Salut !
Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir. Ça fait longtemps en plus que j'essaie d'organiser ça, donc je suis d'autant plus heureuse de te recevoir. Écoute, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Eh bah, salut, je m'appelle Louane, j'ai 26 ans, je suis chanteuse et actrice, un peu, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, c'est trop cool, et un mec trop cool.
C'est pas mal, c'est bien résumé. Est-ce que tu te voyais comme ça quand t'étais enfant ?
Chanteuse de ouf.
Ouais, chanteuse, mère épanouie.
Chanteuse de ouf, actrice, je sais pas trop. Je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants, sauf à une période un peu chiante de ma vie où je me posais des questions, mais ça a été assez court. Où je disais, j'aurais jamais d'enfant. Bah.
Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Franchement, ça a été hyper court dans ma vie. C'était plutôt quelque chose qui était dû à la colère de la part de mes parents, en fait.
Et tu t'es dit, je veux jamais que mes enfants ressentent ce que
j'avais, j'avais peur de mourir, clairement. Et puis, non, j'avoue, j'imaginais pas du tout. Enfin, j'espérais ma vie comme ça, je l'imaginais pas trop comme ça. Et je suis hyper contente, parce que, au final, aujourd'hui, j'ai complètement la vie dont la mini-moi de 8 ans rêvait. Donc, c'est hyper cool. Je suis hyper reconnaissante et fière d'en être là dans ma vie, quoi.
Ouais. Et pourtant, j'entendais... alors, je sais plus, parce que j'ai regardé pas mal d'extraits. Je sais plus si c'était dans une lettre que t'écrivais à toi-même ou si c'était dans une chanson, mais que tu disais qu'en gros, à 19 ans, t'avais tout pour être heureuse, tout ce dont t'avais toujours rêvé, et que pourtant, tu n'arrivais pas à l'être.
Parce que c'était hyper extérieur, en fait. Dans le sens où, d'un point de vue extérieur... Dans les yeux des gens, j'avais vraiment tout pour être heureuse. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de succès, j'avais beaucoup de je sais pas comment expliquer, mais genre tout ce que j'avais envie de faire, ça marchait plutôt bien. Donc ça avait l'air hyper cool, mais dans le fond, ma santé mentale faisait que clairement c'était un peu chaotique. C'était un peu chaotique. Et du coup, ouais, c'est clair que à 19 ans, c'était un moment de ma vie où j'étais pas hyper bien dans ma peau, dans ma tête, surtout dans ma tête, plus que dans ma peau même. Et du coup, ouais, c'était hyper paradoxal parce que j'avais l'impression que à la fois, je pouvais pas me plaindre parce que tout ce que j'avais, c'était exceptionnel. Et à la fois, je le vivais pas hyper bien. C'est pas tout ce que j'avais que je vivais pas bien, c'est juste que moi, d'un point de vue personnel, complètement hors de ce que j'étais en train de vivre, du succès que j'avais, du travail que je faisais, moi, en tant qu'humain, genre juste... personne, j'allais pas bien, quoi.
Mais ça, je le partageais dans ma dernière vidéo YouTube. Je crois que c'est le premier enseignement que je partage, genre de mon bilan 2022. Et si on n'a pas la santé mentale, on n'a rien. On n'a rien, tu vois. C'est-à-dire, tu peux avoir toutes les reconnaissances du monde, tout le succès du monde, si dans ta tête, ça va pas, mais ça
ne... il y a rien.
Voilà, il y a rien. Et je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu un épisode vraiment difficile... de santé mentale. Toi, je crois que ça, c'est depuis assez jeune, en fait, que tu ressens, en tout cas, ce décalage. Je crois que tu as été diagnostiqué du TDAH
à 8 ans.
Ouais.
À 8 ans. C'est cool, parce que moi, j'ai été diagnostiqué tôt. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais donc, ouais, j'ai fait pas mal d'allers-retours dans différents cabinets et de psychiatrie et de psychologie. Écoute, figure-toi que j'ai commencé une nouvelle psychothérapie ce matin.
C'est vrai ?
Avec une nouvelle personne, parce que j'ai eu le besoin de changer.
Ouais.
Et ça s'est hyper bien passé, donc je touche du bois pour que ce soit la bonne personne.
Ouais, parce que ça, c'est vrai que ça peut traumatiser. Je sais pas si du coup ça s'est bien passé quand t'étais enfant, mais si on ne trouve pas forcément les personnes qui nous comprennent, ça s'est
bien passé, toi ? Non. Autant, souvent quand t'es TDAH, tu as en parallèle de tes sessions de psy, l'orthophonie. Et en fait, mon orthophoniste, genre, je me rappelle de son nom et tout, je l'ai trouvé exceptionnel. Mais les séances de psy, c'était vraiment pas mon truc, du tout. Ce qui a fait que plus tard, quand j'en ai eu besoin, j'ai pas du tout eu envie. Dans le sens où, forcément, quand j'ai vécu le décès de mes parents, il a fallu que j'aille voir un psy. Et puis, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas parce que j'étais trop angoissée de ce que j'avais connu petite et que j'avais pas du tout envie de revivre ça. Et à chaque fois, on me poussait à y aller. Donc, j'y suis beaucoup allée. Mais sans du tout vouloir. Donc, quand t'as pas envie, ça marche pas. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de psy différents adultes. Jusqu'à ce que j'en trouve une vachement bien. Et puis... Et puis, je suis arrivée à un moment où j'ai eu la sensation qu'elle pouvait plus m'aider. Et donc, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et là, je viens de commencer une nouvelle thérapie ce matin. Donc, et franchement, le premier rendez-vous, c'est hyper bien passé. Donc, je suis hyper, pas enthousiaste, mais optimiste.
Et comment tu trouves une bonne psy? Comment t'as changé de démarche? Tu vois, quand tu t'es dit, OK, j'ai besoin de voir quelqu'un d'autre, tu demandes...
Autour de toi, tu cherches.
Ça marche pas trop le truc de Google, quoi.
Bah, alors, moi, mon ancienne psy, je l'ai trouvée sur Google.
Hein. D'accord.
Enfin, alors, je l'ai pas trouvée sur Google. Genre, en gros, j'ai eu le besoin d'aller voir un psychiatre. On a beaucoup discuté. Ce psychiatre que j'ai trouvé sur Google, qui était un spécialiste justement du TDAH, qui m'a référé à cette psy-là. Donc, techniquement, c'est Google plus lui. Mais ouais. Et là, aujourd'hui, Non, là, c'est franchement du bouche à oreille. C'est une copine, c'est une copine actrice à moi qui m'a donné le contact. Et c'est pas sa psy, elle, parce que du coup, petite info comme ça, c'est pas ouf d'aller voir la psy de quelqu'un qu'on connaît.
Oui, c'est mieux, voilà. Même ne serait-ce que pour se livrer de manière vraiment sincère. Et est-ce que pour les personnes peut-être qui savent pas ce qu'est le TDAH, tu peux décrire un peu ce que c'est, et d'ailleurs je pense que c'est un trouble réversible, non? Parce que
complètement.
Comme la plupart des troubles, en fait, c'est pas un diagnostic à vie.
Non, ça peut complètement, en fonction des gens, se calmer à l'âge adulte. Qu'est-ce que c'est le TDAH? C'est hyper difficile d'en faire une définition en le vulgarisant, surtout que moi, j'apprends à vivre correctement avec aujourd'hui, mais je l'ai un peu vécu comme une insulte quand j'étais beaucoup plus jeune, donc c'est un peu... C'est un peu difficile. En gros, c'est quoi TDAH? Comment t'expliques ce que c'est être TDAH? C'est quelqu'un qui a des troubles de l'attention, donc qui va avoir une concentration assez réduite, qui va avoir du mal à... ça va être à se concentrer sur quelque chose, ça va être à rester dans une discussion, c'est beaucoup dans sa tête... et à la fois avec ou sans hyperactivité, il se trouve que moi c'est avec, c'est quelqu'un qui est plein de vie, aux yeux des gens trop plein de vie, qui a en vrai un super pouvoir, c'est juste que c'est pas vu comme ça. Mais à mes yeux c'est un super pouvoir, parce que grâce à cette hyperactivité là, moi j'avoue que je fais plein de choses dans la vie, dont par exemple être capable de suivre une conversation que je suis pas vraiment.
Genre, c'est génial. C'est pas là, j'espère.
Non, c'est pas là. Mais tu vois, par exemple, ça m'arrive vachement de... Alors, il y a deux choses que je fais. Je regarde pas beaucoup les gens. Et alors, si je regarde pas beaucoup les gens, en général, c'est bon signe, c'est que je suis bien dans la conversation. Si je regarde beaucoup la personne, c'est que je suis ailleurs dans ma tête, mais j'ai développé au fil des années ce skills d'être capable d'enregistrer quand même ce que la personne me dit. Et ça, c'est genre mon meilleur... C'est vraiment mon meilleur skill, et c'est génial parce que les gens autour de moi, ils sont persuadés que je les écoute pas, parce que ça se voit quand même sur moi. J'ai beau regarder la personne, t'as l'impression de parler à du vide, clairement, mais j'arrive quand même à enregistrer. Et par exemple, j'avoue, mon mec, il est là genre, t'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu m'as pas écouté, et je suis capable de ressortir mot pour mot ce qu'il a dit. Et ça, c'est...
La plus belle des victoires.
Franchement, c'est un peu mon skill perso que j'aime bien.
Mais donc c'est vrai qu'à 8 ans, j'imagine que ça doit être difficile. En fait, la différence est toujours difficile à vivre dans notre société, encore plus quand on est enfant, quand on aspire tellement à être intégré et à rentrer dans le moule. Comment est-ce que...
C'est un trigger. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie.
Tu ne rentres pas dans le moule?
Non, c'est ça le pire. C'est pas tu ne rentres pas dans le moule, c'est elle rentre pas dans le moule. Genre devant moi, à mes parents, mais pas à moi, genre. Comme si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est une phrase qui aujourd'hui fait partie de mes plus grandes forces de façon évidente, mais genre à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, et pendant toute ma scolarité, j'ai entendu des gens dire à mes parents devant moi, comme si j'étais pas là, elle rentre pas dans le moule. Alors j'ai une information pour tous les profs qui sont pas capables de remarquer la présence de l'enfant, ça marque en fait, ça marque. Voilà. Donc si jamais un jour il y a un enfant qui est là, peut-être faites-le sortir si vous avez besoin de dire ça à ses parents, ou alors lui expliquer ce que ça veut dire.
Ouais.
Parce que moi j'ai juste eu l'impression d'être une meuf qui avait pas le droit d'appartenir au reste du monde. Donc petite, c'est hyper violent comme
ouais,
situation.
C'est hyper violent, c'est sûr. Et puis en fait, je sais pas comment eux-mêmes ne peuvent pas se rendre compte de l'absurdité de cette phrase. Elle ne rentre pas dans le moule. Qui a fabriqué ce moule? Est-ce que je peux avoir le nom du fabricant?
Ouais, vraiment.
Pourquoi est-ce qu'on
donnez-moi le
moule,
j'essaie de rentrer dedans.
Ouais,
hein, franchement,
c'est ça. Pourquoi...
Passez-le moi, je vais glisser.
Je sais ça. Nous, c'est pas une contre-volonté de notre part, mais c'est juste qu'en fait, on a été fait dans un moule différent. Et ouais. c'est difficile plutôt que de peut-être. Mais en fait, je pense que c'est aussi le système éducatif qui fait comme ça. Tu vois déjà le fait d'être 30 par classe. Mm. En fait, forcément. On n'est pas 30 à avoir la même capacité d'attention, la même, tu vois, la même capacité d'apprentissage. La même... Et donc ça, je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque où, au XVIIIe siècle, certains pouvaient se payer un précepteur, où en fait, oui, trop bien, tu as un prof particulier toute ta life qui s'adapte à ta façon d'apprendre.
À toi, oui, bien sûr.
Mais non, là, le but, c'est qu'on réussisse à partager un maximum d'informations au maximum de gens. Et force est de constater que ça marche pas pour tout le monde, quoi.
Non, et puis clairement, ça va pas marcher pour moi. Mmh. Parce qu'en vrai, j'ai pas la sensation d'être complètement bête. Et pourtant, j'ai été en échec scolaire toute ma vie. Et pas parce que j'étais pas capable d'apprendre, parce que j'étais pas capable d'apprendre de la façon dont on m'apprenait. C'est un peu compliqué, hein, parce que dès qu'on m'expliquait de façon différente et qu'on avait un focus sur moi, bah... Bon, c'est un peu égocentrique, mais en même temps, c'est le cas, donc c'est comme ça. J'apprenais vachement mieux. Mmh. Et par exemple, c'est con, mais là, en ce moment, je prends des cours de piano et j'ai été hyper claire avec mon prof. Je lui ai dit, mais en fait, si t'es pas sur mes côtes, je vais pas bosser. Parce qu'il y a ce truc dans l'hyperactivité aussi où ce qui va m'intéresser, ce que je vais avoir envie de faire de moi-même, ouais, tu peux être sûr que je vais tout savoir sur le sujet. Mmh. Genre, je vais me buter à ce sujet et il n'y aura rien d'autre qui va compter. C'est presque obsessif, clairement. Mais quelque chose que je dois faire pour quelque chose et qui n'est pas quelque chose que j'ai genre, vraiment à l'intérieur de façon
viscérale
envie de faire, va falloir être un peu sur mes côtes. Tu vois ? Mmh. Donc c'est une façon de travailler différente. C'est pas simple. Et quand t'as 26 ans et que t'es adulte et que tu sais et que t'as les moyens et la possibilité de le faire, c'est cool. Mais quand t'as 8 ans et que tu le sais pas et que tu comprends pas, bah alors ça donne quoi? Ça donne un enfant qui parle pendant les cours et pas qui chuchote pas, hein, qui parle, qui se balance sur sa chaise, qui est incapable de rester en place, qui... Ouais, donc j'ai été beaucoup au coin. J'ai même été... Une fois, on m'a mis dans une armoire.
Oh mon Dieu.
Ouais, c'était un peu chaud.
Ah,
j'ai changé d'école.
Ouais, c'est border tout ça.
Ouais, c'était un peu chaud.
Comment tu arrives à en faire une force? Est-ce qu'à ce moment-là, tu y arrives déjà?
Non, pas du tout.
Tu subis vraiment tes années d'enfance?
Ah, et puis j'ai subi longtemps. Genre, j'ai subi jusque au moins fin collège où j'ai décidé de me barrer, en fait. Au lycée, je suis allée en internat. J'étais en mode genre... I don't want this anymore. Mm. Ciao, bye. La première année au lycée, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des potes, en fait, pour la première fois de ma vie, qui étaient en mode « Ok, t'es bizarre, mais c'est un bizarre qu'on aime bien, donc ça va. » Et après, bah, ce qui se passe dans un lycée, c'est que bah, vous êtes des milliers, donc bah, forcément, c'est plus facile de se mettre dans la masse, même quand t'es un peu... Comment dire
Bah, différent, mais bon...
Excentrique.
Il l'est pas, quoi.
Ouais, vraiment. Ouais. Bah si, en vrai, qu'il l'est, hein. Franchement, qu'il l'est. Je te jure, et même encore aujourd'hui, je le vois dans ma façon d'agir tous les jours, tu vois.
D'accord. Ah non, mais moi, je voulais dire, pardon, qui ne l'est pas, dans le sens où... Qui n'est pas différent, en fait?
Ah oui, qui ne l'est pas, vraiment.
Qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que la personne qui n'a pas de différence, quoi?
Bah, je...
Mais c'est juste qu'on passe...
Tu disais genre le modèle du moule, on a chacun notre moule, en fait.
Ouais, c'est ça, on a chacun, par définition, été fait dans un moule différent, mais je pense qu'il y a juste certaines personnes qui arrivent à le cacher mieux que d'autres, et ce qui est dommage, Tu vois, je pense c'est que en fait, on passe beaucoup de temps dans nos années d'enfance et d'adolescence à éteindre un peu notre flamme pour justement ne pas être remarqué, parce que mine de rien, c'est pas vraiment ce dont on a envie, parce que souvent les personnes qui se font remarquer, on les pointe du doigt, etc. Et en fait, je pense qu'il y en a peu qui arrivent à non seulement ne jamais l'éteindre, mais même à après la revendiquer, tu vois.
Moi, j'ai pas eu le choix. Hein.
Ouais.
C'est un peu le truc de l'hyperactivité, c'est ouais. que...
Et aussi parce que, mine de rien, t'as été quand même aussi très tôt confronté à une passion, je pense, qui t'a nourri. Imagine, t'avais pas découvert la musique aussitôt.
Figure-toi que c'est pas une confrontation, c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. Dans le sens où... Donc c'est ma nounou qui m'a un peu introduite à la musique. Et j'ai compris que ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. Tu vois ? J'ai compris que la musique, ça me faisait du bien, que chanter, ça me faisait du bien et que c'était le seul truc qui allait me soigner, en fait. Et au final, c'est la seule chose que j'ai jamais arrêtée. Mmh. Ça, c'est un peu un truc de TDAH. T'essayes plein de trucs, t'adores tout et t'abandonnes un peu tout.
Mais il y a des passions que tu gardes, quoi.
Bah, moi, c'est la musique. Ouais. Clairement, ça m'a cadré, en fait. Ouais. Dans ma vie entière, ça m'a cadré.
Et donc, je crois que tu fais ton premier concours de chant à 8 ans.
Yes.
Comment ça se passe ? Comment tu vis le fait d'être exposé, le fait de pouvoir peut-être là briller, là où tu ne brillais pas à l'école, quoi ? Comment...
Bah, écoute, c'était génial.
C'est le coup de foudre.
Ah, ouais. C'est instantané. Et ensuite, j'ai pleuré toutes larmes dans mon corps. Parce que je suis arrivée cinquième.
Ah ouais. Ah.
Ouais, quand à 8 enfant, ans, c'est... t'es pas préparée à pas gagner.
Ouais,
tu vois.
La monnaie en chocolat, tu t'en fous.
Vraiment, exactement. Et pourtant, j'étais quand même coup de cœur du jury. Tu vois, genre, je suis pas première, pas deuxième, troisième. Non, je suis coup de cœur du jury. Ce qui m'a permis, sache-le vraiment, que ça m'a permis d'avoir un bisou de Christophe Maé. Dans les coulisses du Roi Soleil. Voilà, c'était ça mon prix de cœur du jury.
C'est mieux que rien,
et c'était,
tu vois,
exceptionnel. À mon âge, à 9 ans, du coup, parce que du coup, c'était l'année d'après, c'était exceptionnel.
On s'en souvient de ça. Ouais.
Voilà. Non, bah, c'était évident. Je suis montée sur scène, j'ai chanté, je suis ressortie et j'ai dit, alors ça, je te le répète, je m'en rappelle pas, hein, c'est ma nounou qui me l'a dit. Je lui ai dit que j'avais eu très peur, mais que j'avais trop aimé. Et en fait, ça correspond complètement à ce que je ressens aujourd'hui quand je monte sur scène. J'ai très très peur juste avant, et ensuite, c'est genre. Mon meilleur espace d'épanouissement, en fait. J'aime trop ça. C'est un peu égocentrique, mais j'aime trop ça.
Bah, si on fait pas ce qu'on aime, je sais pas si la vie vaut vraiment le coup, tu vois. Je trouve
non,
ça
c'est
bien
clair.
Que tu... Et puis que tu réussisses à dépasser, parce que je pense que pas mal de gens ont peut-être du mal à dépasser cette peur initiale. Parce que, en fait, surtout toi, si jamais t'as connu du harcèlement scolaire, etc., c'est se confronter au regard de l'autre. Ça doit toujours être quelque chose de difficile, j'imagine.
Bah, alors, oui et non, dans le sens où si on fait un parallèle avec mon rapport au corps, oui, c'est sûr que c'est pas facile. En revanche, et ça va être un peu présomptueux de ma part, mais en même temps, c'est un peu comme ça, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, c'est la chose dans laquelle j'ai la meilleure confiance chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je dis pas ça pour dire ouais, je suis forte, c'est pas le cas, c'est juste que genre j'ai tellement travaillé toute ma vie pour en arriver là où j'en suis, et c'est vrai, hein, j'ai commencé les cours de chant à 8 ans et j'ai jamais arrêté, j'ai pas fait une année de ma vie sans cours de chant, aujourd'hui y compris, je prends encore des cours de chant aujourd'hui, parce que c'est tout.
T'as envie de continuer à donner la lumière,
j'apprends
de
toujours en fait, j'apprends toujours, et je suis pas sûre que je t'arrêtes d'apprendre à un moment, donc je pense que je prendrai des cours de chant toute ma vie, ou du moins à chaque fois que je travaillerai, tu vois. Mais si je devais faire la palette de tout ce que je sais faire, ce que je sais faire le mieux, c'est chanter. Voilà.
Et donc,
mieux que écrire des chansons, mieux que jouer à la comédie, mieux que tout, en fait. Mieux que tout. Le truc que je sais faire le mieux, c'est chanter.
Et c'est aussi ce qui te donne le plus de plaisir.
Ah, c'est une évidence. C'est une évidence.
Ouais, ça, c'est génial de pouvoir aligner tu vois, ce que tu sais faire de mieux et ce que tu aimes. C'est un peu l'iegikai en japonais. Je crois que c'est une espèce de rosace où sont croisés ce qu'on aime le plus faire, ce dans quoi les personnes qui nous entourent disent qu'on est bon, ce qu'on pourrait faire même si on n'était pas payé pour le faire. Il y en a un dernier, je sais plus.
Ah bah,
ce que
chanter,
c'est.
Ça rentre dans les trois.
Et ça,
pour moi.
Et ça, l'Igikai, c'est un peu ce pour quoi tu es fait, quoi.
Bah, donc je pense que je suis faite pour chanter.
Mmh. Ouais, ça, j'espère.
Du coup,
finalement,
après ce que tu
tombée.
Dis, ouais. Il semblerait que je sois faite pour ça. Tant mieux. Vraiment, je touche du bois pour que ça continue parce que c'est vraiment ce que je préfère faire au monde. Voilà.
Et du coup, c'est que c'est avec The Voice vraiment que tu te dis, ok, là, je pense que je peux y consacrer ma vie.
Après The Voice. Pas avec The Voice.
Ok.
The Voice, je suis une gamine de 16 ans, donc je me dis, ok, je vais faire de la télé, c'est trop bien. Et ensuite, à la suite de ça, on me dit que mon contrat, il est on hold, tu vois. Et ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se décider de s'ils ont envie de me signer ou pas. Là, il y a la famille Bélier, du coup, ils me signent.
Il y a
la famille Bélier.
Ah d'accord, ok.
Et du coup, ils me signent.
Ok.
Et là, quand ils me signent, je comprends que ça veut dire que je vais faire un album.
Ouais.
Et à ce moment-là, je suis là genre, ok, c'est ça ma vie. Je ferai jamais autre chose. Pour l'instant, j'ai jamais fait autre chose. Je croise les doigts pour que ça continue, parce que j'aime vraiment très très fort ça. Enfin, si je fais autre chose, j'aimerais que ce soit en addition à la musique, tu vois.
Sans jamais mettre de côté la musique.
Je peux pas.
Et t'étais en demi-finale de The Voice, c'est ça ?
C'est ça.
Et comment... Alors, c'est quelque chose que je me demande toujours, tu vois. Je sais pas qui était le gagnant ou la gagnante de ton année.
Mm-hmm. Il s'appelle Johan Frégé.
Ok. Donc... Je sais pas s'il a ensuite, il s'est fait un nom, etc. Mais je me demande toujours qu'est-ce qui fait que certains, certaines, qui ne sont pas forcément les gagnants, vont réussir à s'imposer comme tu l'as fait par la suite, tu vois.
Eh ben, je sais pas te répondre. Franchement, je sais pas te répondre parce que je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de des gens qui vont te pousser. Faut que tu tombes sur les bonnes personnes de façon évidente. Faut toucher les gens aussi. Franchement, je sais pas quoi te dire.
Parce que toi, c'est vrai que ça a été dès le début. Tu vois, c'est pas, ouais. Y a pas eu du mal à démarrer. C'est dès le début, t'as été un vrai coup de cœur pour le public français.
Si on parle en termes d'album et de single, etc. Mon premier single qui est sorti, il a pas marché. C'était jour 1 et il a pas marché. Donc on a sorti Avenir derrière, qui a vachement pris. Et puis nous, on croyait vachement à jour 1, donc on l'a ressorti. Et là, il a marché. Mais au début, c'était pas...
Et comment tu l'expliques,
c'était
ça ?
C'était pas ouf.
Avec le recul, t'arrives à comprendre pourquoi ?
C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour cette chanson-là. En fait, je pense qu'il y a des moments dans la vie, des fois... en vrai, c'est facile de dire « Ouais, cette chanson-là, elle marche, cette chanson-là, elle marche pas. » C'est aussi vachement le mood des gens, ce qui se passe à ce moment-là dans le monde. Il y a plein de choses à prendre en compte.
Et toi, ouais, c'est fort en tout cas de l'avoir ressorti en se disant non, mais c'était, en fait, on sait que ça peut marcher quoi.
C'était pas mon idée perso. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai 17 ans.
Ouais,
donc, en termes de marketing, je suis pas encore hyper aiguisée. Mais mon management à ce moment-là, qui était hyper, pour le coup, eux, aisés dans le marketing et dans tout ce qui était le monde de la musique, ils m'ont dit ok, on va ressortir jour 1. Et d'ailleurs, en vrai, moi, j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Comment ça, on va ressortir ?
Ouais, ouais, pour tu toi, vois, il était déjà sorti.
Ouais, et ils m'ont dit, bah, c'est juste que là, maintenant, en promo, on va se fixer sur jour 1. Sauf que je l'avais déjà fait. Et du coup, il y a... Franchement, je pense qu'il y a jamais eu autant de contenu sur une chanson que j'ai sur jour 1. Pour de vrai, genre, c'est... Comme on l'a sorti deux fois, il y a tellement, mais tellement eu de promos différentes sur ce titre que je pense que ça doit être mon titre avec le plus... Et puis en plus... Tu sais, c'est un titre que j'ai refait plusieurs fois derrière. Souvent, quand on me demande... Alors, en ce moment, moins, parce que comme je suis dans un album hyper piano-voix, quand on me demande de jouer ce qu'on appelle un gold, donc c'est-à-dire un titre de ma discographie qui a... En gros, les radios, ils disent qu'il y a eu du succès, mais sur tes albums précédents. Bon, en ce moment, je prends Cité Zéléa, parce que je suis dans une era hyper piano-voix, hyper deep. Mais genre, sur les albums précédents, souvent, quand on me disait, ok... choisis un gold parce que je veux bien que tu fasses ton titre promo, mais je veux aussi que tu fasses un de tes anciens titres. Bah, jour 1, en fait. Parce que, en vrai, c'est un des plus gros titres de ma carrière. C'est un peu comme ça qu'on m'a découvert. Et franchement, il est spécial, ce titre, pour moi. Et tu sais, souvent, on me dit, mais en fait, on n'a pas marre de chanter cette chanson. Bah, non. Alors, c'est sûr que maintenant, en live, je fais des nouvelles versions. Je lui donne des nouvelles... Ouais, en fait, j'offre des nouvelles perspectives à ce que la chanson a pu être à la base, tu vois. Mais je suis juste reconnaissante, tu vois.
Oui, puis en plus, je sais pas si tu composes tous tes singles, enfin toutes tes chansons depuis le début.
Non.
Ok, parce que j'allais dire ça, qu'en plus, quand c'est toi qui les écris, je pense qu'il y a un affect aussi hyper particulier, quoi.
C'est absolument pas moi qui ai écrit cette chanson.
Ah ouais, c'est fou.
C'est un mec incroyable qui s'appelle Patchy Garat. Et en fait, il se trouve que j'ai le premier album que j'ai composé, enfin pas que j'ai composé, mais que j'ai écrit à 100% et composé à genre 75-80%, c'est celui qui vient de sortir.
Ouais.
J'avais jamais écrit un album en entier.
Ah ouais.
Mais j'ai écrit sur tous mes albums, sur le premier, une chanson. Mais
bah, step by step. Mais, hein.
Ouais,
et je trouve ça bien de le dire aussi, c'est qu'on peut pas être du jour au lendemain savoir tout
ans,
faire.
En fait.
Quoi. Ouais.
Donc et je savais pas trop écrire. Donc sur le premier album, j'ai écrit une chanson. Le deuxième, j'en ai écrit trois. Le troisième, j'ai écrit la moitié. Et le quatrième qui vient de sortir,
t'as tout écrit.
Je l'ai écrit en entier.
Ouais. Et t'as des retours je sais pas, j'aime pas le mot fan, mais t'as le retour
des personnes qui me suivent.
Voilà, des personnes qui me suivent, qui t'écoutent, sur la différence qu'ils ressentent justement entre ces différents albums, le fait que
ouais, bien
ce
sûr.
Soit toi qui
bah, c'est hyper écrive. Perso.
Ouais.
Et ça s'entend en fait.
Ouais, ouais.
Ça s'entend, mais en vrai, c'est bête à dire, mais même moi je l'entends. Enfin, c'est une évidence. Alors ça veut pas dire que c'est mieux, hein. C'est juste plus perso. Tu vois, c'est juste plus... peut-être même moins ouvert, en vrai, tu vois. Mais ouais, c'est plus perso.
Et est-ce que t'as appris, justement, à écrire? Ou est-ce que... Parce que je me demande toujours, c'est difficile de trouver à la fois... tu dois réussir à exprimer tes émotions, faire en sorte que ce soit quand même assez universel, faire en sorte qu'il y ait une belle sonorité. Je crois que tu fais quand même pas mal de rimes aussi. Enfin, tu vois, est-ce que ça, c'est... T'as appris au fur et à mesure? Où tu t'es dit un jour, là j'ai vraiment envie d'apprendre à écrire mes chansons, à exprimer ce que je ressens. Je trouve que c'est une compétence qui est assez, assez complexe.
En fait, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Je fais partie des gens qui ont le goût du risque et qui ont pris le sujet d'invention au bac.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Et j'ai eu 15.
C'est important de le souligner. Hein.
J'ai eu 15, donc ouais. Ça veut dire que ça va, ça passe. J'écrivais des poèmes au lycée. J'ai toujours aimé écrire en fait, donc j'ai toujours écrit. La première chanson que j'ai écrite de ma vie, j'avais 12 ans, c'était chaotique, mais c'était déjà...
C'était des mots,
un truc à, tu vois, c'était déjà un truc. Comment est-ce que j'ai appris à écrire? Je pense que je me suis entourée de personnes à un moment où j'avais besoin et où je me sentais pas à l'aise avec mon écriture seule pour m'aider, dont un mec incroyable qui s'appelle Thomas, T-O-M-A, qui est un chanteur, auteur, compositeur, interprète exceptionnel que je vous invite à aller écouter, qui m'a vachement aidée sur l'album précédent à m'ouvrir à l'écriture. Et ensuite, c'est con, mais Taylor Swift. Voilà. Taylor Swift, elle m'a appris à écrire. Elle le sait pas. Je l'ai quand même remerciée dans mon album.
Elle nous écoute, donc elle le saura.
Waouh. Wow. Mais elle m'a appris à écrire, dans le sens où... En fait, il y a des femmes comme ça que je trouve exceptionnelles dans la façon dont elles écrivent. Beaucoup, j'avoue, beaucoup sont américaines ou anglophones. Taylor Swift, Gracie Abrams, Julia Michaels, Charlotte Cardin. Et en fait, tu sais, j'ai beaucoup cherché dans leurs écritures, malgré le fait que ce soit en anglais, une sorte de consonance dans ma façon à moi d'écrire. C'est-à-dire que Taylor Swift, ce qu'elle aime faire, c'est... des textes hyper premier degré, mais avec des métaphores qui sont genre incroyables. Ou des figures de style hyper visuelles, comme une écharpe rouge, par exemple. Pour tous les fans de Taylor Swift, je sais que vous êtes avec moi là maintenant. Et j'avoue que j'essaye de suivre ce que j'écoute et ce que j'aime dans ma façon d'écrire, sans pour autant copier. Mais de toute façon, genre, je peux pas vraiment copier de l'anglais à part traduire.
Ouais. Et puis, enfin bon,
je crois pas, hein, j'ai essayé à un moment dans ma vie.
Ah ouais.
Mais c'est pas des trucs que les gens ont entendu, jamais. Et parce que, enfin, j'ai pas envie de plagier des gens, clairement.
Ouais.
Mais ouais. C'est comme ça que j'apprends. Donc en écoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Particulièrement d'artistes féminines, en fait. J'écoute beaucoup, beaucoup d'artistes féminines.
Bah écoute, il en faut. Il faut des personnes comme toi pour aussi leur donner de la force. Et je trouve ça hyper, hyper vertueux. Est-ce que tu as eu...
Merci.
Enfin, qui a été la première mentor que tu as eue? Ou le, d'ailleurs, dans le monde de la musique?
Tu dirais mes managers. Hein.
Ok.
Enfin, pas mon management d'aujourd'hui, mon ancien management. Celui avec lequel j'ai commencé. Parce que c'est eux qui m'ont tout appris. Voilà.
C'est
au bout
des
d'un
personnes
moment...
qui étaient eux-mêmes passées par là ou c'est...
Non, que... c'est des personnes qui étaient qui... dans le milieu.
Qui sont dans le milieu de la gestion de talent.
Alors, pas juste de la gestion de talent, de la gestion de la musique. Mon ancienne manager, Catherine Nobrunus, elle était à la base l'une des plus grandes attachées de presse de Paris et dans la musique. Mm-hmm. Et Marc Hernandez, qui est aussi... Donc, ils travaillaient ensemble. Lui, il était à la tête d'un très gros label. Ils ont arrêté de faire leur profession et ils ont commencé à manager des artistes, puis ils m'ont proposé de me manager et ils étaient trop cool, donc voilà. Et puis on s'est séparés sur le début de l'exploitation de mon troisième album, parce que tout simplement on n'avait plus les mêmes envies en fait, et on est en très bon terme, donc c'est très cool. Mais ouais, je pense que ça a été mais vraiment tort, c'est les gens qui m'ont appris ce métier, quoi.
Ouais, non, mais c'est tellement important, je pense, parce que c'est vrai que t'es arrivé à un âge où tu te construis, où c'est tellement facile de faire des erreurs. On voit tellement d'exemples américains, à chaque fois, ça fait vraiment de la peine, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont happés par le milieu et en fait, ils pètent tous un câble derrière parce qu'en fait, ils ont été des personnes qu'ils ne sont pas vraiment, quoi.
Mais en même temps, je peux pas te dire que ça m'est pas arrivé, hein.
Ah ouais ?
Non, c'est pas parce que t'es hyper entouré et que tu... Enfin, il y a forcément un moment où tu dis « Wow, je suis qui, en fait ?» Parce que dans ce milieu-là, tu restes matrixé. Même si t'as les bonnes personnes autour de toi, tu restes matrixé quoi qu'il arrive, dans le sens où... Bon, tu parles de pétage de plomb, bien sûr que j'ai pété les plombs.
Ça ressemble à quoi, tes pétages de plomb?
Franchement, dépression post-tournée, crise d'anxiété, anxiété sociale, je suis plus sortie de chez moi. C'était pas drôle. D'ailleurs, c'est ma psy qui m'a dit d'arrêter, pour te dire, à l'époque.
Les tournées?
Ouais, à la fin de ma tournée, j'étais censée enchaîner directement... De ma deuxième tournée, j'étais censée enchaîner tout de suite sur le troisième album. Et en fait, elle m'a dit, tu vas voir ton management et tu leur dis que moi, j'ai demandé à ce que tu arrêtes. Donc, je suis allée les voir et je leur ai dit, faut que j'arrête. Et ils ont dit, ok. Et j'ai quand même fait une bonne petite dépression.
Et est-ce que, alors, je sais que souvent, ça ne s'explique pas, la dépression, et d'ailleurs, c'est une maladie externe, quoi, mais est-ce que dans ton cas, elle était induite par quelque chose que tu as réussi à identifier ?
Par plein de choses. C'est difficile de poser le doigt sur une seule chose, tu vois. Mais par plein de choses. Et aussi par justement ce que tu disais il y a deux secondes. Tu vois, tu parlais d'artistes qui avaient la sensation de ne pas avoir été qui ils étaient vraiment. Mais en même temps, faut que tu imagines que quand tu es artiste, particulièrement quand tu es une femme quand même, faut être honnête, on te demande toujours d'être la version la plus parfaite de toi qui existe. Donc tu vois, moi, à 17, 18, 19, 20 ans, quand j'arrive en télé, je suis toujours bien présentée, je sais toujours de quoi je vais parler, et c'est tellement presque lisse que j'ai même une façon de parler qui est différente de la façon dont je parle normalement. Tu vois, je peux te faire la voix d'ailleurs, en vrai.
Vas-y, fais-nous la voix.
À l'époque où j'ai 17 ans, quand je suis en interview, je me mets à parler comme ça. Tout le temps, je parle comme ça. Parce que tu vois, c'est une voix plus douce, c'est une voix un peu plus assurée, mais douce. Et puis, j'ai envie que les gens, ils m'aiment bien. Donc, je fais tout pour que les gens, ils m'aiment bien. Donc, tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que, en fait, c'est pas la vraie vie. Mmh. Et en fait, j'ai mis du temps à me détacher de ça. J'ai commencé à me détacher de ça sur mon troisième album. Et mon quatrième album, c'était clairement celui que je viens de sortir. Ouais. Là, c'était clairement, regardez, en fait, salut, c'est moi. pas fuck everyone, parce qu'en vrai, everyone, c'est les gens qui ont fait que je suis là aujourd'hui, tu vois.
Mais par contre, des médias.
aussi. Oups. Mais c'est aussi genre, j'en ai marre, en fait. Ouais. Je suis pas parfaite. Voilà, je ne suis pas parfaite. Ouais. Et donc, je vais arrêter d'essayer de vous montrer que je suis quelqu'un de parfait, parce que je le suis pas.
Mais en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis, et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, du coup, cette recherche de la perfection persiste.
La société.
Parce que... Ouais, la société, mais tu vois, sachant que ça ne sert ni les personnes qui essayent de l'être, ni les personnes qui regardent, parce que du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a que des gens parfaits. Enfin, le sentiment que tu décris, j'en ai pas parlé encore, parce que bah, c'était il n'y a pas du tout longtemps, mais j'étais sur le plateau de Quelle Époque il y a 10 jours. Voilà, j'aime beaucoup Léa Salamé, elle est venue sur le podcast, j'aimais beaucoup les gens présents, mais j'ai ressenti un énorme malaise pendant tout le tournage.
C'est normal.
vraiment, en fait, tu vois, j'avais envie de crier aux gens, genre, mais arrêtez! Genre, arrêtez de jouer un jeu. Genre, tu sais, je sentais que c'était à qui fera la plus grosse blague, à qui réussira à faire le plus son intéressant. J'avais l'impression de revenir au collège.
Ouais, bah, c'est clairement ça.
T'avais un peu la bataille des gens qui essaient d'être populaires, qui essaient de se faire une place et tout. Et en fait,
ça
m'a un peu dégoûtée du monde de la télé, quoi. J'étais un peu là, mais. Mais en fait, si c'est ça, et du coup, toi-même, t'essayes, comme tu vois que tout le monde fait ça, bah, t'essayes de faire un peu la même chose. Alors, j'ai essayé quand même de m'en préserver un maximum, mais. Mais en fait, du coup, ça ne donnait même pas envie d'interagir parce que j'étais là, mais... En fait, ce sera à qui essaiera de te moquer de toi, mais gentiment, ou qui essaiera de rebondir sur ce que t'as dit pour faire encore plus son intéressant. Et ouais, je me suis dit, putain, c'est toxique, quoi.
Ouais, mais tu vois... Alors, mon mais, il n'est pas pour défendre quoi que ce soit parce que j'ai pas du tout envie de défendre ce milieu. Clairement, c'est un truc qui m'a vraiment matrixée, mais c'est ça que j'allais dire. Mais tu vois, en fait, on est tous matrixés. Depuis toujours. Et que ce soit sur l'idée d'être parfaite ou le rapport au corps ou la façon dont on évolue dans la société, on a grandi avec des standards qui sont quand même les standards des années 2000, qui sont quand même des standards qui sont hyper toxiques. Je suis personne pour dire ça, mais une habitude à casser, ça prend des millénaires, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on a tous l'habitude. Et en vrai, je t'assure que moi, j'essaye de le casser. Et à la fois, genre, je me retrouve en télé et je reprends l'habitude de me mettre à parler comme ça et d'être mignonne, tu vois.
Mais parce que sinon,
et à chaque fois, je suis là, genre, putain, mais pourquoi ?
Mais sinon, t'as trop l'impression de faire tâche, en fait. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'être un ovni. Et si jamais je me mettais à être comme je suis sur les réseaux, genre, j'allais me pointer du doigt en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois ? Et je pense que c'est accepter. En fait, il faut réussir à accepter. De ne pas prendre le masque qu'on nous tend et genre de se dire non en fait les masques c'est
ça
fini
plaît
quoi.
Pas aux gens
ouais
en mais plus, ça plaît pas aux gens
en
non,
plus d'ailleurs
non,
ouais.
Ça plaît pas aux gens
ah qu'on mette pas le masque
ça plaît pas aux gens être
bah regarde pourtant tu l'as enlevé il s'appelait
ouf Twitter
ah non
c'est ma façon de parler hein
c'est ma number one rule ne jamais ouvrir Twitter
putain si seulement j'en étais capable
ouais.
Non clairement
mais supprime... pourquoi tu supprimes pas ton compte
parce que j'en ai besoin tu sais c'est une question de marketing mais bien sûr et puis aussi c'est ma façon la plus facile de pouvoir parler aux gens encore plus que Insta que TikTok non mais je te jure c'est l'interaction
ouais mais j'aime pas le concept t'es limité dans tes caractères moi déjà ça me va pas c'est pour ça que je fais
oui,
une d'accord. Heure et demie du coup c'est très facile de reprendre un truc que t'as dit pour le détourner
mais ça partout hein. Excuse-moi
en plus,
mais ça partout
je sais pas pourquoi sur Twitter les gens se cachent beaucoup plus derrière leur écran que sur les autres réseaux enfin
t'as ouvert TikTok.
Alors, j'ai ouvert TikTok, mais c'est vrai que je regarde jamais mes commentaires.
C'est similaire. Hein.
Ouais, je regarde jamais mes commentaires sur TikTok. Je sais pas pourquoi j'arrive.
C'est similaire.
En fait, je suis arrivée sur TikTok en ayant déjà, je pense, tellement de billes avec les réseaux sociaux que j'ai vraiment utilisé cette plateforme en mode OK, une corde de plus à mon arc, on va voir comment c'est, ça va être marrant, mais où en fait, je m'en détache vachement plus. C'est-à-dire, tu vois, Instagram et YouTube, je me suis construit avec. Donc, je pense que j'ai un attachement hyper fort et du coup, les commentaires me touchent énormément parce que c'est ce qui m'a fait, tu vois. TikTok, comme
moi,
j'étais déjà faite,
pareil, hein.
Entre guillemets, et ben je regarde même pas les commentaires, je m'en fous. Je suis là, genre, franchement, c'est juste pour passer le message. Vous aimez pas, tant pis, tu vois. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir ce recul avec... les plateformes qui avec
qui
lesquelles j'ai grandi, on va dire.
Tes plateformes de... enfin, c'est con de dire ça, mais c'est tes plateformes bébés.
Ouais, de
tu
cœur,
vois,
quoi.
C'est celles
ouais.
Sur lesquelles tu as débarqué. Mais en vrai, je suis vraiment désolée de te le dire, la majorité des gens, ils n'aiment pas qu'on enlève les masques parce qu'ils sont habitués au lisse. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont habitués à ce truc de la télé de... c'est con, mais c'est vrai. C'est ouais. Con, mais c'est vrai. Et moi, je t'avoue que... il y a eu plein de moments dans ma vie où j'avais peur de faire certaines émissions... parce que j'avais envie de le faire en moi, tu vois, et que je savais que ça allait casser les couilles des gens. Je le savais pertinemment. Et en fait, franchement, me faire critiquer sur mon physique, c'est une chose. Mais OK.
On choisit pas son physique.
Et puis même, OK. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vis avec mon corps, pas eux, tu vois. Ensuite, me faire critiquer sur ma musique, encore plus ok, parce que chacun ses goûts. Mais sur qui je suis ?
Ouais. Ouais,
s'il
ça, c'est
vous
dur.
Plaît, genre.
Ouais.
Il y a un peu de... Il y a quelqu'un, en fait, dans le corps que vous êtes en train de...
De juger.
De malmener, tu vois. Du coup, genre, j'ai déjà été réticente à faire des choses parce que je savais que j'avais envie de le faire de façon naturelle et que j'allais me faire exploser. Et ça m'est arrivé mille fois.
Mais ça, c'est le pire, je pense, quand tu as l'impression que ton naturel n'est pas assez.
Trop dans mon cas.
C'est trop bien de comparer et de pouvoir le dire. Non, mais tu vois, juste de se dire qu'il est pas comme ce que les gens aimeraient qu'il soit, parce que c'est un sentiment d'échec, entre guillemets, qui est hyper fort, quoi.
Et puis hyper douloureux.
Ouais.
En vrai, genre, les fois dans ma vie où j'ai eu le plus de mal à passer au-dessus d'un commentaire, c'était pas sur mon corps, c'était pas sur ma musique, c'était quand on parlait de ma personnalité, tu vois. C'est genre... Ok, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas dans la vraie vie, je sais que je suis exubérante, mais vas-y, s'il te plaît, je suis à l'intérieur de l'enveloppe que t'es en train de critiquer,
tu vois. Et parfois, tu te dis pas... c'est injuste. Parce qu'en vrai, les gens qui commentent ça, ils te connaissent pas.
Qu'est-ce qui est injuste ?
Qu'est-ce qui est juste ?
Ça, non, mais en vrai, c'est, je sais pas
qu'est-ce
quoi
que
dire.
La justice ?
C'est injuste. Bah oui et non, ça fait pas... Enfin, c'est horrible. C'est pas injuste, c'est horrible. Mais ça fait partie de mon travail. Donc moi, j'apprends à me construire en sachant que j'aille à droite ou à gauche, bah, je vais m'en prendre une forcément à un moment.
Ouais.
Tu vois ?
Et donc, t'arrives à ne pas aller à droite parce que les gens attendent que t'ailles à droite ?
Ah non. Non, si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite.
Okay.
C'est un peu un problème d'ailleurs.
Franchement,
parce que
mais
si j'ai envie d'aller
hein.
à droite, je vais à droite. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si je vais au milieu, je vais au milieu. Et malheureusement, à part les gens qui sont avec moi décisionnaires de ce que j'ai envie de faire, ah bah si je vais à droite, au milieu ou à gauche, c'est moi qui décide. Voilà.
Pourquoi ce serait un problème ?
Parce que le problème, c'est comme ça dans ma vie de tous les jours et j'ai pas énormément de filtres et j'ai tendance à être très très honnête. Et en fait, l'honnêteté, c'est pas toujours ce qui convient à tout le monde.
Moi, mon avis, c'est que c'est pas l'honnêteté le problème, c'est la susceptibilité.
Mais ça dépend, parce que parfois, c'est pas une question de susceptibilité, mais de capacité à accepter ce que la personne en face de toi te balance. Tu vois, c'est pas forcément que de la susceptibilité. Parfois, tu te retrouves face à une personne qui a pas du tout la même sensibilité que toi. Et c'est pas forcément quelque chose de qui relève de la susceptibilité si c'est quelque chose qui la touche et qui lui fait du mal, tu vois.
C'est sûr.
Et du coup, j'essaye en ce moment de réguler ça. Mais parfois, je le vois pas, donc c'est un peu chiant.
Non, mais je comprends totalement. C'est très dur de... Mais en fait, c'est le biais de l'interprétation, tu vois. C'est toi, tu peux dire quelque chose qui est tout à fait bienveillant, mais la personne va pas le recevoir de la même façon. Et donc... Tu vois, si on essaie de froisser personne, je pense qu'on dit plus rien, quoi.
T'as tout dit, hein.
C'est pour ça que nous, on parle. C'est pour ça que nous, on aime parler.
Je suis là.
Mais écoute, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton rapport au corps aussi. Parce que, voilà, même si t'as dit que ça te touche moins que par rapport à ta personnalité, je sais que ça t'a quand même touché. Est-ce que tu arrives à te rappeler le jour, le moment où tu as commencé à ne pas aimer ton corps ?
Ah, c'est un moment marquant dans ma vie. Donc oui, très bien. J'ai 12 ans. Je suis devant l'école primaire dans laquelle j'ai été, enfin l'une des écoles primaires dans laquelle j'ai été du coup, devant mon collège, et je saute en l'air, je saute parce que je suis contente, et mon t-shirt se relève sur mon ventre, donc il faut imaginer que je suis une petite fille normale, donc j'ai pas... je vais retirer ce mot parce que tout le monde est normal, tous les corps sont normaux et tous les corps sont parfaits, mais...
Tu n'es ni considérée comme,
ni considérée comme une personne grosse, voilà, exactement. Il se trouve que par contre, j'ai un peu de ventre. Ce qui est en fait pas mon problème, parce que j'ai 12 ans et que bah, du coup, j'ai autre chose à faire que de me regarder dans une glace. Et là, il y a des garçons qui, eux, en plus, sont en troisième. Moi, du coup, j'ai 12 ans, donc je suis en cinquième. Qui voient mon ventre et qui se foutent de ma gueule et qui m'appellent boule de gras. Et à partir de là, mais alors, c'est fini dans ma vie. C'est genre... C'est pas un love-hate relationship avec mon corps, c'est genre juste un hate relationship. Voilà. Hate. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'avance comme je peux avec ça. Parce qu'en vrai, ces trois mecs-là, ils savent pas, mais ils m'ont cassé en deux jours.
C'est fou. Putain, je te jure, le poids des commentaires, parce qu'il y a trois mecs qui n'ont pas réfléchi ou qui ont réfléchi et qui malheureusement ont dit des conneries. ça me hérisse, quoi, parce que c'est des années après de détestation de soi, de
vraiment
un rapport au corps hyper compliqué.
C'est ouf.
Et est-ce que t'en parles à ce moment-là? Est-ce que t'en parles
non.
à quelqu'un?
Alors, oui et non. J'en parle avec une de mes copines qui va pas hyper bien non plus. Et du coup, c'est un bourbier entre elle et moi et les TCA. Tu vois? Donc, not fun en fait. Pas drôle. Parce qu'en plus, au lieu d'être intelligente, et enfin, pas d'être intelligente, on est des enfants. Donc en fait, on fait
comme
on
peux,
peut, tu vois. Et à ce moment-là, c'est l'époque des skyblogs. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais à mon époque, au collège, les skyblogs, c'était vachement axé sur les TCA. Et c'était un peu.
Ouais.
C'était un peu genre.
Il y avait presque
une sorte de propagande,
ouais,
tu vois.
Il y avait presque praise de l'anorexie.
Mais exactement. Ouais. Et alors moi, pour le coup, c'était pas l'anorexie, c'était la boulimie, tu vois. Mais du coup, avec ma pote, on était juste entraînés là-dedans, tu vois. Et au lieu de s'en sortir correctement en allant voir un adulte et en se disant qu'on va pas bien, bah non, on s'entraîne toutes les deux dans de la merde, en fait. Dans de la merde. Dans de la merde qui reste pendant des années, dans des années, dans des années, des années. Et puis... tu te retrouves à 26 ans à faire le point sur ta vie et à te dire « Ok, quand est-ce que dans ma vie, j'ai mangé juste pour manger dans ma vie sans ni culpabiliser, sans ni réfléchir sans ni... ?» Ben franchement, jamais. Jamais depuis mes 12 ans. C'est horrible ou pas? Franchement, c'est horrible.
Ouais,
c'est
ouais.
Nul.
C'est une charge mentale qu'on devrait pas s'infliger.
Non.
Quoi.
Et tu vois, j'ai la sensation, et je touche du bois parce que tu t'en sors jamais vraiment complètement, tu vois. Mais j'ai la sensation de m'en être plutôt bien sortie de cet TCA-là, tu vois. Ça reste une crainte récurrente dans ma vie et un truc dont on peut pas parler avec mon mec parce que je deviens hyper agressive et chiante et genre, c'est pas ses affaires, tu vois. C'est irréel au possible, mais c'est quand même le cas. Et ça reste un truc de genre... c'est comme un fil, tu vois. C'est comme un fil, où tu sais jamais de quel côté tu vas tomber. Et t'espères que tu tombes du bon côté. Et alors, ça fait quelques années que je suis plus ou moins du bon côté, tu vois. Mais... tu paniques. Et quand tu reviens à la source et que tu dis que c'est trois bolos de 14 ans qui ont commencé ce truc-là, tu te dis « Ah ouais !»
En fait, il devrait y avoir une sorte de 10 commandements qu'on apprend dès le primaire. Tu vois. Le corps de l'autre, tu ne jugeras pas.
Vraiment.
La
wow.
différence, tu respecteras. Tu vois, franchement, si vraiment. Vous voulez l'éducation nationale, je vous écris un petit manifeste.
On le fait ensemble.
Ouais, avec
ah, vraiment,
grand plaisir.
Je suis hyper chaude. On le fait ensemble.
Il nous écoute. Non, mais c'est vrai que c'est... Je pense sur l'avenir. En fait, c'est combien
ah,
de carrières brisées, disons-le. Moi, je connais des femmes, à cause des troubles alimentaires, qui n'osent pas postuler pour un certain job.
Bien sûr.
Des femmes qui ne se sentent pas légitimes parce qu'elles... Enfin, en fait, ça te lave complètement le cerveau et ça te donne l'impression, à ce moment-là, que ta valeur est définie par ton poids, ton apparence. Et en fait, il faut apprendre aux enfants que ce n'est pas le cas, quoi. Enfin, si on leur apprend pas, ils peuvent pas le deviner, ils peuvent pas le
ouais.
savoir. Et toi, le premier réflexe que tu as du coup à ce moment-là, c'est de te dire, faut que je perde du poids,
ouais.
faut que je change.
Ah ouais. Mais tu sais, c'est un truc qui est tout le temps dans ma tête. Quand je suis plus mince, quand j'ai toujours, faut que je perde du poids. La période de ma vie où je suis la plus mince, faut que je perde du poids, toujours.
Et en fait, c'est ça le piège.
Tu vois.
C'est que
et c'est tout
c'est
le temps ça.
Tu te le dirais. Enfin, moi, j'ai pesé 45 kilos et tu te le dis quand même.
Ah mais bien sûr.
Et
bien sûr.
Donc en fait, faut poser le pourquoi.
Périodes où j'ai été le plus mince dans ma vie, faut que je perde du poids. Faut que je perde du poids. Faut que je perde du poids. Tu
et
vois.
Et quand tu te demandes
toujours.
Pourquoi, tu réponds quoi?
Parce que je veux être belle.
Pourquoi tu veux être belle?
Parce que tu vois ce truc de merde de vouloir être belle aux yeux des autres.
Et pourquoi est-ce que tu veux plaire aux autres?
Franchement, c'est nul. C'est pour essayer de remplir un vide que je devrais être capable de remplir moi-même, tu vois.
Bah là, tu te juges vachement. Alors qu'au fond, la réponse, elle est assez claire. C'est parce que t'as un vide que tu veux remplir. Et
pour ouais, bien moi, sûr, et que donc, je pourrais remplir d'une autre façon.
Et qu'on pourrait remplir d'une
bien
façon.
Sûr.
Ou qu'on peut apprendre à comme une plaie, tu vois, résorber, entre guillemets. Et je pense que peu de gens font ce travail-là de chercher le dernier pourquoi.
Alors
le
moi,
pourquoi
je l'ai.
Du pourquoi, tu vois. Et parce que, du coup, on peut travailler ensuite sur ce pourquoi-là et pas sur le premier qui est « je veux perdre du poids ».
Ouais, bien sûr.
Qui au final ne résout rien, parce que le jour où tu perds du poids...
T'as quand même encore envie de perdre du poids.
Voilà, non mais le vide, il n'a pas été comblé, vu qu'en plus t'as perdu du poids. Tu n'es au final que moins, tu n'es même pas plus.
Viens, on parle à la moi de 19 ans, deux secondes.
Ouais, bah de ouf.
Ah là là.
Écoute-nous, Louane de 19 ans. Et j'ai vu d'ailleurs...
Est-ce qu'on lui dit qu'elle va prendre du poids ou pas? Parce que je pense qu'elle va tomber dans les pommes.
Bah dis-lui, on va prendre du poids et pourtant, on sera plus heureuse.
C'est
ok. On sera plus heureuse que tu ne l'es actuellement.
Vraiment, on sera plus heureuse. Alors, on n'est pas encore au climax du bonheur, mais j'ai une théorie très personnelle sur le fait que, genre, le bonheur existentiel de tous les jours n'existe pas.
Ouais.
Tu vois ?
Et comment t'en es arrivée à cette théorie ?
Se concentrer sur les moments. Tu vois ce que je veux dire ?
Mm-hmm.
La vie, c'est, tu vois ? Genre, c'est mille choses. Donc, bah forcément, dans une journée, tu peux vivre des trucs géniaux et des trucs hardcore. Et puis, genre, à toi de décider de te concentrer. Enfin, décider, c'est un grand mot, parce que des fois, t'as pas le choix que de te concentrer sur quelque chose qui te touche, tu vois. Mm. Mais sur le meilleur. Mais genre, un bonheur constant. J'avoue, j'ai du mal à y croire, mais je suis pas fataliste parce que ça me va, tu vois.
Mm.
Parce que je me concentre... Enfin, j'essaye, en tout cas, de me concentrer sur les meilleures choses qui m'arrivent. J'y arrive pas toujours.
Bah,
mais c'est OK aussi.
Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de la nature, dans le sens où de la nature de la personne, c'est... Je trouve ça assez culpabilisant, les discours qu'on peut entendre parfois. Tu vois, te relever ou tomber, c'est toi qui décides. Enfin, oui.
Bah non.
C'est toi qui décides, mais en fait, il y a des coups qui te mettent tellement bas qu'en fait, là, tu peux pas te relever. En fait. Et me dire ça ne m'aide en rien, tu vois.
Non, laisse-moi par terre. Laisse-moi gérer la situation par terre. Laisse-moi être en galère par terre pendant un moment. Il y a un moment où je vais avoir besoin d'aide. Et genre, t'inquiète, je t'appellerai. Et si tu vois que je suis pas capable de t'appeler, genre, viens me voir et propose-moi de l'aide.
Mmh.
On a que deux jambes, donc se relever tout seul, c'est pas
faut
si
avoir
simple.
Des
faut
abdos,
être
hein.
Hyper souple. Et moi, personnellement, abdos, là, je suis pas c'est... hyper souple.
Ouais.
Ok.
Non, mais
c'est trop me demander.
Il y a aussi le problème, et on en revient toujours à ce qu'on valorise ou pas, mais je pense qu'on hiérarchise la force et ce qu'on considère comme étant fort ou faible. Et pourquoi est-ce qu'on valorise plus le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à se relever ou à avancer tout seul plutôt que des personnes qui ont osé demander de l'aide ? En fait, c'est que pour moi, déjà, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les deux.
Non.
Mais si on devait en faire une, c'est quand même vachement plus courageux d'oser dire « Écoute, là, je ne vais pas bien. »
Help me !
Genre, s'il te plaît, aide-moi, quoi.
C'est
mais
clair.
Je dis ça, je me fais grave l'avocat du diable. Moi, l'année dernière, j'étais dans le mal le plus absolu et j'en ai parlé à personne, à part... une amie parce qu'elle était psychothérapeute. Voilà, et je me suis dit bon, elle peut m'aider.
Elle
peut m'aider.
Genre on fait les bons choix.
Rien n'arrive par hasard, mais parce que juste je me disais parce que j'avais trop honte, comme si c'était de ma faute, tu vois.
Mais c'est pas honteux d'aller mal.
Mais et aujourd'hui, je le crie sur tous les toits, tu vois, mais quand t'es dans le mal, je pense que c'est trop dur de l'accepter dans certains cas en tout cas. Enfin, moi,
ouais, non, je comprends. Et puis aussi, t'as un truc de... C'est autre chose encore, mais t'as aussi un truc de parfois, t'es bien dans le mal.
Ouais.
Tu sais, la complaisance de la tristesse, le fait d'être bien dans la tristesse, c'est OK aussi. Et du coup, parfois, ça prend plus de temps à certaines personnes de sortir de cette tristesse-là. Moi, par exemple, je sais que j'ai vachement été dans ce truc de complaisance de tristesse, tu vois.
Quand ça ?
Bah, franchement, toute ma vie. Toute ma vie, genre, à chaque fois que j'ai été triste, j'étais en mode genre, ah, c'est confortable quand même. Tu vois ?
Genre, l'artiste maudite un peu ou pas ?
Parce que
j'ai l'impression
que
les artistes
j'en ai
ont
pas
plus
tellement...
ce côté où ils se voient presque comme des personnes qui doivent
non.
subir pour pouvoir ensuite en parler.
Non.
Ok.
J'ai pas besoin de subir des choses. J'ai assez subi.
Ouais, c'est clair.
Merci. C'est bon.
Merci, au revoir. J'ai signé
c'est
le
bon.
Contrat.
Je pense que pour le reste de ma vie, je peux écrire des sad songs jusqu'à la fin. C'est bon, je peux. Y a pas de souci. J'ai subi assez, tu vois. Non, et en plus, vraiment, je pense pas que les moments où je suis triste, ce soient les moments les plus propices. Je parle de tristesse profonde, hein, parce que quand je suis un peu triste, oui, j'écris des chansons et c'est cool. Mais soient les plus propices, justement, à l'éclosion de
l'art. À la créativité. Ouais.
Vraiment, pas du tout. Pas du tout. Clairement, quand je suis triste, je suis triste, et puis laisse-moi dans mon lit, tu vois. Mais non, en vrai, il y a un truc de confort, en fait, dans la tristesse. Enfin, à mes
en fait,
yeux.
C'est marrant parce que j'adore quand les invités sur le podcast ont des visions différentes de la mienne, mais moi, pas du tout, tu vois. Moi, je suis le contraire de ça. C'est-à-dire que je repousse la tristesse, je n'accepte pas la tristesse.
Mais comment tu guéris de la tristesse si tu la repousses et que tu l'acceptes
pas ? Je la transforme en colère.
Mais elle va finir par passer à un moment.
Mais en fait, elle me dérange. En fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que je la laisserais entrer ?
Mais parce qu'il faut que tu la laisses entrer, sinon tu la vis pas. Et si tu la vis pas, elle reste ouverte. C'est exactement ce que tu parlais comme les plaies tout à l'heure.
Pour l'instant, j'arrive à faire... je crois que j'arrive à... Et j'en parlais avec Cyrus North sur ce podcast aussi. C'est un truc un peu philosophique de stoïcien où j'arrive à me dire... tu vois, alors, prenons un exemple très concret. De toute façon, je suis très transparente sur le podcast. Il y a 6 mois, mon grand-père est décédé. Je l'adorais, voilà. J'adore tous mes grands-parents. Et bon, j'ai été triste. Mais ça faisait 1 an qu'il était à l'EHPAD. Donc, tu vois, c'est pas comme si on s'y attendait pas. Et 2, en fait... Comme je suis très mal à l'aise et inconfortable avec le sentiment de tristesse, genre j'ai peut-être été triste 24 heures, genre j'ai pleuré, j'ai repensé à des moments, enfin tu vois là encore, je peux avoir les larmes aux yeux en l'imaginant qui vient à ma fenêtre pour me dire au revoir comme il nous faisait quand on était enfant. Mais en fait, en 24 heures, je me suis dit, bon, à quoi me sert cette émotion ? En vrai, à rien. Elle m'empêche d'avancer. Il aurait pas voulu que je sois triste. En vrai, il aurait pas voulu. Enfin, moi, si jamais je meurs, j'ai pas envie que les gens autour de moi soient tristes. Enfin, si un peu au début, mais ensuite, j'ai pas envie que ça les bloque, tu vois. Et donc, genre, en 48 heures, je passe à autre chose.
Et bah, c'est cool. C'est
j'ai peur qu'un jour, ça me saute à la gueule, tu vois. Mais.
Bah, franchement, je sais pas, je suis pas psy, donc je peux pas te répondre. Mais je peux pas te répondre à ça. Mais déjà, je pense qu'on a tous. Tu vois, tu parlais d'hiérarchie tout à l'heure. Il n'y a pas d'hiérarchie de la souffrance, donc j'imagine que ce que tu ressens à ce moment-là, c'est légitime et c'est comme ça que tu l'abordes, tu vois. Mais moi, ce que je dis très souvent, quand on me dit ouais, mais ce que tu as vécu, c'est horrible et tout, je dis souvent ok, il y a peut-être des gens à l'autre bout du monde qui sont encore plus tristes que moi que mes parents sont morts parce que leur chien vient de mourir, tu vois.
Oui.
Mais c'est juste pour rappeler au monde que, genre,
l'échelle de la douleur n'est pas ressentie de la même façon.
Tu peux pas comparer la douleur et la souffrance.
Ouais.
Si toi, t'es capable de t'en sortir aussi vite, franchement, waouh, bravo. Mais ce que je pense aussi, c'est très personnel, je pense pas que la tristesse et la douleur et la souffrance, et encore une fois, c'est hyper perso parce que justement, on quantifie pas tout ça. Je pense que ça peut être... Ça t'empêche pas forcément d'avancer. Ça peut être au contraire drainant. Et tu vois, moi, j'avoue que j'ai tendance... Pas par choix, du coup, on a parlé de TDAH au début de ton podcast. J'ai tendance à vivre mes émotions de façon exacerbée à cause de ça. Et du coup, je suis obligée de les vivre pleinement. Et peu importe ce qu'elles, d'où elles viennent et ce qu'elles vont me faire, elles sont là, quoi. Mm. Donc, elles sont là. Deal with it, et c'est tout. Mm. Et c'est pas forcément freinant, en fait, d'être triste ou d'être en colère, tu vois. Ça peut aider à avancer, mais d'une façon différente de ce à quoi tu t'attends à la base. Mmh. Et c'est cool parce que moi, je sais que la tristesse dans la vie, ça m'a vraiment fait grandir, en fait. Ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a fait accepter plein de choses. Et par contre, ouais, vraiment, moi, j'avoue, j'ai ce piège-là de la complaisance de la tristesse. Et ça, j'avoue, je le conseille pas aux gens parce que... Quand tu finis par trouver ça confortable et agréable, c'est là le risque de c'est cette dépression, tu vois.
Ah ouais, mais c'est fou, tu vois. J'essaye de m'imaginer comment on pourrait trouver la tristesse confortable et ça me fascine, en fait. Ça me fascine vraiment.
Je sais pas comment expliquer ça.
Tu te dis pas.
En fait, tu fais plus d'efforts quand t'es triste. Tu fais plus d'efforts.
Donc c'est le fait de peut-être rendre les armes, en fait.
Tu vois, c'est une pause.
J'ai vu,
c'est pas une pause cool.
C'est en 2018 que t'as fait une pause.
Ouais.
Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as laissé la tristesse, entre guillemets, prendre le dessus ?
Elle avait clairement pris possession de mon corps avant que je commence cette pause, clairement.
D'accord.
Mais ouais. Après, j'avoue, j'ai eu plusieurs phases de tristesse et de dépression, en vrai, dans ma vie. Ouais. Mais 2018, c'en est une, oui. Complètement.
Et comment, la première fois que tu fais une dépression, comment tu t'en rends compte ?
Je suis petite.
Ah ouais ?
Je suis petite et je vais pas bien. Je vais pas bien. Je vais juste pas bien. Et je sais que je vais pas bien et je me fais du mal et c'est pas cool.
Et t'en parles là à tes parents ?
Non, du tout. J'en parle à ma petite sœur. T'imagines le poids pour elle ? J'en parle à ma petite sœur qui, à ce moment-là, a 10 ans. Je suis à ce moment-là, vraiment. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis comment j'ai pu lui mettre ça sur la tête ?
Mais t'étais une enfant, t'as juste eu envie d'en parler à quelqu'un de confiance.
Et elle a été exceptionnelle avec moi. Franchement, elle a été exceptionnelle. Tu vois, parfois, les yeux d'un enfant, c'est assez pour te porter, quoi. Et clairement, putain, qu'est-ce qu'elle m'a porté, ma sœur, pendant des années, quoi. Mais je sais pas. Tu le sais, quoi. Non, en vrai, tu le sais. Non, tu le sais pas forcément. En vrai, je dis, tu le sais quand t'es en dépression. Non, c'est faux. C'est complètement débile ce que je viens de dire. Tu le sais pas forcément.
Mais tu ressens un profond mal-être,
mais,
quoi.
Mais moi, je personnellement, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien et c'était assez évident, tu vois.
Est-ce que t'en as voulu à ton entourage de pas l'avoir vu?
Non. Pas particulièrement. Parce que j'avais pas hyper envie qu'il le voie. Tu vois. Donc. Je me suis pas dit. Non. Plus tard, par contre, au lycée, j'ai été triste. Et là, j'en ai voulu. Et je leur ai dit. Je leur ai dit, genre, vous voyez pas quand même que je vais mal? Genre, je vais mal, là, en fait. Réagissez, quoi. Sauf que bah, tout le monde n'a pas les clés, forcément, pour réagir. Tu vois. Et du coup, j'ai été voir un psy. Voilà. Ça m'a aidé. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai repris. Et pareil, genre, faut un peu désacraliser le fait que ça doit être hyper constant, les psys, dans la vie.
Je suis d'accord.
J'avoue, je conseille à tout le monde, s'ils ont les moyens d'aller voir un psy, s'ils n'ont pas les moyens et qu'ils en ont besoin, d'aller en CMP ou, pour les plus jeunes, dans des maisons des ados, parce qu'il y a toujours moyen d'être aidé sans forcément dépenser d'argent si t'en as pas, tu vois. Mais t'es pas obligé... je sais pas comment dire, c'est pas un truc que t'es censé faire toute la vie. Même si moi, par exemple, en ce moment, je viens de commencer un truc où tous les lundis matin, à 9h30, je serai chez ma psy, tu vois. Mais t'es pas obligé d'avoir un ou une psy ou un thérapeute en général de façon constante, tu vois.
Faut s'écouter, hein. Je pense qu'à partir du moment où ça devient, moi je sais que j'ai arrêté aussi parce qu'en fait à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, où voilà j'ai obtenu ce que je recherchais et où ça devient plus voilà en effet une contrainte de y aller, je me dis bon bah c'est peut-être pas le moment là de continuer et puis le jour où j'en aurais besoin en effet c'est une porte qui reste ouverte et qui peut vraiment faire la diff. Quand on parlait à la Louane de 19 ans, j'avais relevé une petite citation extraite de Secret dans ton dernier album. Tu dis, j'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Après, j'ai pas repris la phrase exacte, mais en gros, tu le dis, j'espère que tu ne feras pas la même erreur.
Ouais.
Donc, tu t'adresses à Esmée, à ta fille.
Exactement.
Et je me suis demandé, comment est-ce que tu lui conseillerais de ne pas faire la même erreur? Comment est-ce qu'on peut ne pas faire la même erreur?
J'espère qu'on sera assez proches pour qu'elle ait confiance en moi et qu'elle puisse me parler. Moi, je sais que j'avais pas confiance en les adultes et du coup, j'avais pas du tout envie de leur parler. Parce que pour moi, les adultes, ils m'avaient fait trop de mal parce qu'ils avaient exacerbé le fait que j'étais pas comme les autres, tu vois. Moi, je vais lui faire comprendre qu'elle est pas comme les autres. Qu'elle est unique, que chaque personne est unique et que c'est une force d'être unique dans la vie. En tout cas, j'essaye de faire ça. Je lui dis tous les jours qu'elle va devenir une femme extraordinaire. Enfin, d'ailleurs, je lui dis qui est-ce qui va devenir une femme extraordinaire. Elle me répond, c'est moi. Et c'est trop cool. Et en fait, ouais, j'espère qu'elle aura la possibilité justement de venir me parler ou d'aller voir quelqu'un qui lui fera du bien. Et je parle pas forcément de quand je dis aller voir quelqu'un, je parle pas forcément d'aller voir un psy, mais une personne mentalement responsable, pas forcément adulte, mais mentalement responsable, qui sera capable de l'aider. Parce que je pense que c'est pas. Enfin, je pense que tu peux pas faire tout seul. J'espère personnellement que cette personne-là, ce sera moi. Après, si c'est pas moi, je vais pas en mourir non plus, tu vois. Mais en tout cas, dès maintenant, j'essaye de lui apprendre qu'elle peut être ce qu'elle veut, quoi, et que les autres, ils sont cool, tu vois. Et qu'elle aussi, elle est cool. Et que... Enfin, c'est pas... C'est dur, en fait, parce que déjà, 2 ans et demi, tu vois, la dernière fois, elle est venue, elle m'a dit « L'euro, c'est pour les filles ». Je dis « Alors, qui t'a dit ça ?» Non. Pas du tout. L'euro, c'est pour tout le monde. Tu vois ? Des trucs cons, mais essayer de pas la conditionner à la façon dont nous, on a grandi, tu vois ? Et alors, attention, je critique pas du tout la façon dont nous, on a grandi, parce qu'il y a des choses exceptionnelles dans ce que j'ai appris, que j'ai envie de lui transmettre, tu vois ? Mais il y a aussi des choses où je me dis que lui ouvrir les yeux sur des choses, c'est déjà de base la protéger, tu vois ? Donc, je sais pas comment est-ce que je vais faire pour que pour lui montrer comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tu vois. Mais je vais vraiment essayer tout mon être. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle va souffrir comme tous les humains.
C'est ça qui est dur, ouais.
Mais c'est tout, c'est comme ça.
Ouais.
Elle va souffrir comme tous les humains. Elle aura des névroses comme tous les humains. Même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Parce qu'en vrai...
Arrêtez de mentir.
Stop lying. Ou alors peut-être essaye de te regarder et de prendre le temps, tu vois. De toute façon, c'est le propre de l'humain, hein, d'avoir des choses à l'intérieur, donc c'est ok. Non, bien sûr qu'elle va souffrir, elle va être triste. Et bah ouais, quand t'es maman, t'as envie qu'elle souffre jamais, mais bah...
C'est pas réaliste, quoi.
Non, c'est complètement utopiste, et puis bah, c'est comme ça. Elle va être triste. Ouais. Et j'essaierai de lui remonter le moral quand elle sera triste. Et si elle est triste à cause de moi, je lui demanderai pourquoi et comment est-ce que je peux l'aider à rectifier les choses qui lui ont fait du mal que j'aurais faites. Tu vois,
c'est déjà énorme.
Ouais, bah en tout cas, il faut, hein. Quand elle sera grande, je serai en face d'elle et je lui dirai « Ok, bah, du coup, si ça va pas avec moi, c'est à cause de quoi ? Et qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire, en fait, pour rattraper ça ? Et si tu veux que je fasse rien, ok, je te laisse prendre ton temps. Et si tu veux que je fasse des choses, dis-moi, je suis genre hyper prête à avancer vers toi. » Mais bon, encore une fois, pour l'instant, elle a 2 ans et demi, donc je fais vraiment des plans sur la comète, quoi.
Ça a changé quoi pour toi, la maternité ?
Tout, tu vois ? Absolument rien dans ma façon d'aborder mon travail, en revanche. Parce que très souvent, les gens, ils me disent « Du coup, qu'est-ce que ça a changé, la maternité, par rapport à ton travail ?» Rien, une organisation différente, point. Sinon, dans ma vie et dans mon cœur et dans ce que je suis, tout. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est pas forcément inné, d'avoir un lien et de l'aimer à la seconde où je l'ai vu. Et je mesure cette chance-là parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut vraiment arrêter de...
Culpabiliser
les personnes qui mettent du temps ou qui, voire, n'arrivent pas à créer de lien avec leurs enfants. Enfin, c'est ok, c'est triste, mais c'est ok. J'ai eu la chance, moi, que ça se produise, donc c'était exceptionnel. J'ai eu l'impression de... Je sais pas comment dire, en fait, c'est... J'ai pas eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, j'ai pas eu l'impression de renaître, Non, juste genre... tu sais, c'est comme si genre, on avait ouvert une nouvelle porte dans mon cœur, avec un amour que je soupçonnais ap. Et... Waouh. C'est une vague. Et puis ensuite, bah, t'as peur. De tout.
Ouais.
Vraiment de tout. Vraiment de tout.
Et t'as réussi à le dépasser, ça ?
Ça dépend des jours.
Ouais.
Franchement, il y a des jours où... Alors par exemple, maintenant, quand elle tombe, ça me fait rien. D'ailleurs, je t'avoue, je la cours pas. J'attends, je regarde, je vois si... Bon, si elle pleure, évidemment, j'y vais. Mais si elle pleure pas, je suis en mode « Ah, t'as fait boum, tu te relèves ?» Elle se relève. Elle est hyper forte. Je suis hyper fière. J'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas ? Elle est hyper intelligente, elle est hyper belle.
Je dis ça en toute objectivité.
Évidemment, je suis hyper objective. Mais à la fois, bah, ça dépend. Parfois, j'ai des peurs complètement irrationnelles. Mais ça aussi, c'est ok, en fait. Je suis maman, donc ça va avec, tu vois. Puis tant mieux que j'ai peur, parce que j'ai la sensation que ça fait de moi une meilleure maman, entre guillemets. Et encore une fois, pareil, c'est pas une... Tu sais, genre, mon mec, il a pas peur. Et genre, c'est pas... genre, je pointe pas du doigt les gens qui ont pas peur. Waouh ! Juste waouh, et c'est trop cool. Et ça fait pas de lui un moins bon papa, le fait qu'il ait pas peur. Au contraire, genre, c'est un père incroyable. Et genre, vraiment, je te le dis. Et là, pour le coup... J'ai beau l'aimer, je suis quand même vachement objective parce qu'on n'a pas du tout la même façon d'être un parent. C'est un très très bon père, vraiment. Et je te jure que je mesure ce que je dis en étant... En ayant de l'objectivité, justement, en ayant du recul et en n'étant pas en mode genre « Je l'aime, c'est l'amour de ma vie », même si c'est le cas, tu vois. C'est vraiment un très très bon père. Moi, à côté de ça, je suis vraiment flippée sur plein de trucs. Genre sur l'école, sur... Moi, je flippe à chaque seconde de sa vie, un peu. Mais fine, genre les deux c'est ok, les deux ça peut cohabiter et juste j'essaye de pas transmettre mes angoisses à ma fille, tu vois.
Et qu'est-ce que tu vas lui dire que tu aurais aimé qu'on te dise ?
Tu vois, j'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que je vais lui dire que j'aurais aimé qu'on me dise ? Qu'elle a de la valeur, que l'intérieur de ce qu'elle est a de la valeur, que l'extérieur de ce qu'elle est ne la définit pas mais a de la valeur aussi. qu'elle peut être, faire, qui elle veut, ce qu'elle veut, que je la soutiendrai toujours, peu importe ses choix dans sa vie, et que je suis désolée de l'engueuler si elle me fait chier. Voilà.
Non, c'est pas mal. Tu vois, quand elle écoutera cet épisode, peut-être dans 10 ans...
Attends, moi j'ai peur qu'elle comprenne Secret. Le jour où elle va comprendre Secret, moi j'ai comme ça genre... Salut, ça va? Tu veux qu'on parle?
Elle sera contente. Alors, c'est chaud. Tout le monde sera tout le monde serait flatté d'avoir une chanson qui nous est dédiée.
Elle en a deux déjà.
Tu vois?
2 ans et demi,
à
elle en
deux
a deux.
À 2 ans, voilà, tout le monde ne peut pas en dire autant.
Attends qu'elle ait 15 ans. Il y aura 3 albums.
Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. J'avais vu que, enfin, en tout cas, certains médias disaient que peut-être t'allais faire le Conservatoire de Paris après avoir fait La Famille Bélier, notamment. Donc, tu vois, plus explorer l'acting. Bon, après, c'était peut-être totalement des fantasmes de leur part, mais...
C'était totalement des fantasmes.
Ok. Parce que je me suis demandé, du coup, pourquoi tu ne l'avais pas fait. Et si
j'ai eu envie de faire ça. J'ai dit ça un jour, peut-être.
Peut-être que tu l'as dit, hein. Mais du coup, voilà, est-ce que... Moi, j'ai compris un peu, là, de notre conversation, que... ton plus grand amour, c'était la musique et que... Voilà, mais donc je me suis demandé si le cinéma... est-ce que tu aspirais à continuer ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment tu le vis par rapport à la musique où tu as peut-être ce don plus viscéral ?
Et puis que j'ai vachement plus bossé.
Et que tu l'as vachement plus bossé, totalement.
Alors, c'est pas parce que je fais pas le conservatoire que je bosse pas, hein. J'ai une coach exceptionnelle qui s'appelle Catherine Chevalier qui depuis après La Famille Bélier me suit sur tout ce que je fais. Clairement, non, le conservatoire ça prend vraiment beaucoup de temps et au moment où j'ai fait ça, au moment où je parle de ça, post Famille Bélier, des premiers albums, tout ça, clairement je suis sur autre chose que le conservatoire. S'il y a eu un moment où je l'ai dit parce que j'avais envie de le faire, bah je suis désolée pour moi-même parce que je l'ai pas fait.
Et est-ce que tu as à être désolée pour toi-même finalement ? Est-ce que tu penses que ça change vraiment quelque chose ?
Je dis ça seulement si j'ai eu envie. C'est ouais. Genre s'il y a eu un moment dans ma vie et je m'en rappelle pas où j'ai eu vraiment envie de le faire, je suis désolée pour moi-même de pas l'avoir fait pour combler cette envie-là. En vrai, pour le reste, non, pas du tout, parce que je travaille énormément pour ça malgré tout. Est-ce que j'ai encore envie d'en faire ? Bien sûr. Là, je viens de tourner un film qui était quasiment une révélation pour moi de Jean-Pierre Améris avec Michel Blanc où c'était exceptionnel. Où, franchement, j'ai jamais vécu un film comme ça. C'était incroyable. Je vais pas vous le conseiller parce que je sais pas exactement ce que ça donne et tout, mais en tout cas, moi, ça a été une révélation. Encore plus que tout ce que j'ai pu faire avant, ça m'a donné encore plus envie de faire du cinéma et j'ai hâte qu'il puisse sortir pour pouvoir en parler parce que c'était génial. Mais c'était un moment génial où, sur lequel Catherine m'a aussi accompagnée en amont, du coup, ma coach. Et puis, il y a d'autres petits trucs dans
le pipe.
Papier, tu vois. Mais j'adore jouer moins que la musique, de façon évidente, parce que ça m'appartient. Et encore une fois, de toute façon, quand tu fais ce métier-là, il y a forcément un peu d'égo. Donc, tu vois, de toute façon, c'est égocentrique de faire de la musique ou du cinéma.
Bah,
de la musique.
Deux, hein, mais...
Quand même, je chante des chansons pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir.
Bah,
c'est un peu égocentrique.
C'est marrant, tu vois, moi, je le vois presque plus dans le cinéma que dans la musique, parce que la musique, j'ai l'impression que les artistes... En fait, le font parce que presque ils n'ont pas d'autre choix, ça doit sortir d'eux et.
Ouais, mais il y a un truc égocentrique quand même, hein.
Ouais.
Si.
Ouais, ok.
T'aimes bien être sous le feu des projecteurs, sinon tu le fais pas.
En fait, la façon dont tu le dis, c'est, je sens un jugement, alors que pour moi, ça va pas être jugé.
Ah non, mais je le juge pas du tout. C'est un fait.
C'est un fait, voilà.
C'est un fait.
Ok.
Je le juge pas du tout.
C'est
négatif, okay.
Positif.
De toute façon, je suis humaine. Et genre, pour revenir sur le fait que je suis pas parfaite. Ouais, bien sûr qu'il y a une partie de moi qui est égocentrique, c'est ok, c'est comme ça, voilà, tu vois, et c'est pas du tout un jugement, je suis complètement en phase avec ça, et en vrai je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce métier, mais du coup merci d'avoir ce côté là aussi, parce que ça me permet de faire le métier que j'aime,
c'est vrai,
tu vois, je me juge pas du tout là-dessus, mais c'est vrai que le cinéma pour moi c'est autre chose, et j'adore ça, et je veux continuer à en faire, mais effectivement la musique ça passera toujours avant.
Comment tu choisis les projets que tu fais ? Parce que voilà, t'as plein de champs des possibles.
Avec le cœur. Voilà. Si ça me parle. Parfois, on m'a conseillé aussi. En mode genre, ah, ce serait bien que tu fasses ça. Et j'ai suivi. Et sinon... Mais ça, j'avoue, je le fais moins maintenant. Mais ouais.
T'as déjà regretté un projet que t'as fait ?
Je sais pas, regretter... je regrette rien. Mais il y a déjà des projets où j'ai moins été emballée quand je le faisais. de façon évidente.
Ok. Mais pas de gros regrets
Je vais pas commencer à vivre avec des regrets à 26 ans, j'ai autre chose à faire.
C'est vrai, t'as bien raison d'ailleurs, t'as bien raison. Mais on peut apprendre toujours en fait de... Et est-ce qu'il y aurait un échec alors, plutôt? Ou quelque chose que t'as vécu comme un échec, où tu en as retiré un enseignement?
Oui, il y en a plus d'un en vrai, hein, des échecs dans ma vie.
Ça peut être perso comme pro d'ailleurs.
Ouais, j'essaye de choisir le bon échec, tu vois. Genre celui où je me dis, ok, énoncer un échec, c'est aussi genre montrer une fragilité. Et c'est pas hyper simple de savoir comment gérer cette fragilité-là, tu vois.
Sache que c'est une question qui aide à chaque fois énormément de gens.
Ouais, bien
parce
sûr.
Parce que c'est justement, en fait, montrer que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Et qu'en fait, personne n'est parfait. Et qu'en fait, personne ne peut réussir tout ce qu'il entreprend. Sinon, il s'appellerait Jésus.
C'est pas mon prénom, figure-toi.
Et bah merde.
Putain.
On s'est trompé de personne. On remballe.
Non, bah... Ce que je vois comme un échec, pour le coup, c'est de pas... Et ça, c'est genre hyper difficile à vivre... Dans le sens où je me dis, ah putain, c'est quand même con, tu vois. C'est le fait d'avoir pas réussi à me sentir assez en confiance avec moi-même pour montrer qui j'étais au devant des médias pendant, je dirais, ces 8 dernières années, même si ça fait à peu près 2 ans que je me... J'ai mal au cœur pour toi.
J'espère que c'était juste un pain au chocolat qu'il n'a pas
eu. Oui, c'est sûr.
Ouais,
c'est
parce sûr. Que moi, je pleurais comme ça quand
mais
j'ai
pareil,
quand
pareil.
Mon pain au choc.
T'inquiète, hier, ma fille, elle a pleuré comme ça parce que mon amoureux, il avait oublié son doudou.
Oh, mais
pas le doudou d'Esmé, le doudou de mon amoureux. Parce qu'elle a on a tous un doudou.
Ah bah ouais, j'espère
qu'elle
bien.
Qu'elle a décidé. Et il a fait l'erreur de laisser son doudou dans la chambre d'Esmé à l'heure du coucher. Et de ne pas le prendre avec lui, tu vois. Elle a été
doudous,
très, très triste.
C'est peut-être la seule chose que je garde précieusement mon enfance. Il est actuellement dans mon lit, là, toujours, 25 ans après.
C'est pas
il
le
est là.
Sien. C'est celui qu'elle a décidé.
Ouais, qu'elle a décidé.
Qui est
mais
le
bon,
sien.
Il devrait en prendre soin. Voilà, je rejoins Esmé. Je suis désolée, là, il l'a abandonné.
C'était
quoi.
Tellement mignon. Elle s'est mise à pleurer très, très fort. Et moi, je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit « Papa, il a oublié son doudou !» Et moi, j'étais genre...
Les émotions des enfants,
genre,
c'est quand même...
Mon cœur, il s'est arrêté. C'est la tristesse la plus mignonne qui existe au monde.
Ouais.
Donc, je l'ai pris sans rien après. Je lui ai dit, on va aller lui donner. Tiens, et mon mec qui est rentré direct dans le jeu, en mode genre, mais oui, j'ai oublié mon toutou. Oh, merci de me l'avoir ramené. Et moi, j'étais genre...
C'est
tu vois, c'est pour des moments
bien.
Comme ça que c'est génial d'avoir une famille aussi cool.
Ouais.
Ouais. Enfin, pas pour les larmes, hein, parce que du coup, c'était pour la réconciliation, tu te doutes.
Mais c'est pour l'amour hein. qui voilà.
C'est adorable
ouais,
quand même.
Ouais. C'est
comme
puissant.
Elle sait qu'elle a du mal avec son doudou, à vivre sans son doudou, elle s'est dit, mais papa, il va jamais réussir à vivre sans son doudou.
C'est fascinant, les enfants. J'aimerais bien recevoir peut-être un enfant une fois sur le podcast, juste parce que, tu vois, moi, quand j'étais enfant, je me disais tellement, il faut jamais que j'oublie ce que c'est d'être un enfant.
J'ai l'enfant pour toi, t'inquiète.
T'as l'enfant
pas
pour
la,
moi.
Pas ma fille.
Pas la tienne, ok.
Mais j'ai carrément l'enfant pour toi.
Ok, bah super, on organisera ça parce que...
Trop bien.
En fait, il parle sans filtre, tout est pur, tout est... Tu vois, c'est waouh. Et je trouve qu'on perd trop ça quand on grandit, quoi. Et moi, j'estime vachement les enfants parce que je trouve qu'ils sont pas assez considérés. Sous prétexte qu'ils sont jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont coupé ça au montage de quelle époque. Mais Miss France, à un moment, ils lui disent, parce qu'elle a 18 ans, elle était sur le plateau aussi, ils lui disent « Ah mais, bon, vous êtes un bébé, vous... »
Déjà, c'est vraiment
en fait,
dégradant
moi,
de dire ça à
quelqu'un. Dégradant, genre, je m'insulte, mais arrêtez de la considérer comme... Alors, déjà, 18 ans, en plus, elle est clairement pas un bébé, tu vois.
Imagine
mais...
que dans la tête des gens, j'ai 16 ans depuis toujours.
Ouais. Ouais, j'avoue.
J'ai eu un bébé, les gens ils étaient en mode genre, oh, mais elle a 16 ans. Non, j'ai pas 16 ans. J'ai pas eu un bébé à 16 ans, les gars.
C'est...
Et encore, c'est... Enfin, je veux dire...
Et si c'était ton choix
ouais,
et que tu étais ravie.
Et que t'es capable de le faire, c'est ok. Si ça t'arrive et que tu dois faire avec, bah, c'est ok, tu vois. Genre, on n'est pas du tout en train de dire qu'avoir un enfant à 16 ans, c'est pas possible.
On sent quand même le biais médiatique que tu as de...
Mais non, c'est pas un biais médiatique. En vrai, c'est juste que genre...
Mais si, mais en fait, c'est vrai que toi, t'es tellement exposé que chaque phrase que tu prononces peut être détournée.
Alors non, je fais pas ça pour ça.
D'accord.
Je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que depuis que je suis mère, et c'est hyper... Je suis trop contente de pouvoir le dire. Ah, oh, c'est génial. Depuis que je suis mère, tout est un jugement. Partout. Tout est un jugement. Que tu décides de pas allaiter ou que tu décides d'allaiter ton enfant jusqu'à 5 ans. Oh là là, mais lâchez les gens, en fait. Lâchez les gens. En fait, tout est légitime. Donc pour moi, c'est hyper important de le rappeler à chaque fois que je dis quelque chose qui est contradictoire pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi. Dans le sens où, en fait, lâchez la grappe des gens. Genre, pour moi, dans la vie, quelque chose te gêne, tourne la tête. T'as autre chose à faire, c'est pas tes histoires. Tu vois ? Donc pour moi,
d'accord.
C'est hyper important. Parce que je me dis, imagine, t'as une gamine qui est enceinte, elle a 16 ans, elle est en train de nous écouter là. Là, il y a deux secondes, elle aurait pu se dire, si j'avais pas rectifié, « Oh putain, Et d'ailleurs, elle le sent, déjà. Parce que moi, si moi, à 23 ans, j'ai senti que j'étais jeune pour être mère, parce que les gens me faisaient ressentir que j'étais jeune pour être mère, à 16 ans, j'imagine même pas, ok ? Donc, moi, je veux pas que cette fille, elle se sente comme ça. Cette fille-là, je veux qu'elle se sente, ok, c'est une épreuve dans ta vie, mais j'espère de tout mon cœur que ça va bien se passer. Et je suis quasiment sûre que tu vas y arriver. Tu vois ? Moi, j'ai envie que les gens, ils se sentent comme ça. Et pour tout, en fait. Donc, quand je rectifie, enfin, pas quand je rectifie, mais quand je donne...
Une nuance à tes propos, quoi.
C'est pas pour décrédibiliser mes propos, c'est pour faire comprendre aux gens que ça, c'est moi, que moi, ça me regarde moi, et que ce qu'eux ressentent, c'est pas du tout illégitime. Et pour moi, c'est hyper important de... En fait, je me suis tellement sentie exclue dans ma vie que je veux pas exclure de gens. Voilà. Donc, quand je fais ça, c'est pas du tout un réflexe de média, parce que déjà, je te le dis, ça m'arrive que depuis cette année. Je fais ça que depuis cette année. Mais c'est parce que, en fait, je suis maman. Voilà, je suis maman. Et depuis que je suis maman, j'ai découvert aussi vachement par Instagram le monde des mamans. Et en fait, ça me casse les couilles.
Ah ouais, voilà. Ça me donne vraiment pas envie. Genre, je me rends compte que vraiment, c'est tout le monde y va de son grain de sel, à sa façon d'éduquer. Mais... Et les gens qui critiquent la façon d'éduquer des autres. Et les gens sont obligés de se justifier sur la façon d'éduquer. Mais laissez les gens éduquer comme ils veulent.
C'est pas ton enfant. Et puis, pour le reste, c'est pareil, c'est pas ta vie. Mais alors, j'ai remarqué que du coup, c'est ce qui m'a fait avoir ce truc global de la vie, c'est vraiment le fait de devenir maman et d'être une maman sur Instagram. Tu vois, j'étais genre... Waouh, comment est-ce que tu peux te prendre autant de merde dans la tête parce
mais
que t'as fait un choix personnel ?
Pourtant, tu montres peu.
Je montre pas.
Bah ouais, tu montres pas. Donc
mais c'est mais
comment
c'est,
ça se fait qu'il même comme
c'est
ça
ce que
les
je
gens
regarde.
Arrivent à...
Ah non,
c'est
parce
que tu regardes.
Alors déjà, alors il faut savoir que à chaque fois que je poste un truc où il y a mon mec et moi, c'est genre, mais elle est où ta fille ? Alors en général, à
elle
côté...
est enfermée dans la cave.
Tu sais, en général,
putain,
elle
t'a grillé.
Mais non, mais je te jure que c'est vrai. En général, elle est à côté, pas sur la photo. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas la montrer. Là, ça me fait rire parce qu'en ce moment, les gens, ils sont en mode genre, est-ce qu'il n'y a pas de romantique au ski avec son amoureux ? Frérot, j'ai passé mes matinées devant les piou-piou. Hyper romantique.
Bah, faites gaffe à qu'elle ne soit pas oubliée à la neige parce que moi, ça m'est arrivé et j'ai été traumatisée.
Mais
okay.
Tes parents t'ont oublié à la neige ?
Alors, j'étais avec les piou-piou. Les piou-piou
oh non,
et ma propre sœur jumelle était dans ce cortège. Hein. Je tombe du tire-fesse, je pleure.
Oh non.
Et les piou-piou partent sans moi.
Oh non.
Je les vois partir.
Oh non.
Je me mets à les chercher dans la neige. Il y avait une tempête. J'arrête tous les adultes devant moi.
C'est trop triste.
Est-ce que vous avez vu les piou-piou ?
Mais il n'y a aucun adulte qui t'a aidé ?
Alors, il y en a deux qui m'ont dit non, qu'on continue à skier. Et la troisième s'est arrêtée, elle m'a dit on va les chercher. Et elle m'a aidée à chercher les piou-piou.
Heureusement qu'elle t'a
aidée. Je retrouve les piou-piou, ma sœur, qui n'avait même pas dit au moniteur que je n'étais plus là. Voilà.
C'est génial, c'est vraiment... Non, là, c'était vachement encadré. Il y avait des grilles autour des... Enfin, pas des grilles, mais des filets autour de la zone des piou-piou. Elle ne pouvait pas partir, tout va bien. Mais je ferai attention pour les prochaines fois
ouais,
dans ma vie.
Il faut faire gaffe.
Mais non, c'est vrai que, tu vois, genre, ça, j'avoue, moi, c'est ça mon truc. Genre, les gens, comme je ne montre pas ma fille, les gens, ils sont en mode, mais elle est là. Mais t'as une fille, mais tu la prends jamais avec toi. Mais tu... Non, je vous la montre pas.
Et si tu la montrais, ce serait oh, qu'est-ce qu'elle montre sa fille.
Et en fait, moi je juge pas les gens qui montrent leurs enfants, genre c'est cool, vous faites comme vous voulez. Et moi je la montre pas parce que j'ai vraiment pas envie de le faire et parce que j'ai une notoriété qui est particulière et du coup bah j'ai juste pas envie qu'elle ait à vivre ça.
Ouais.
Tu vois, mais enfin.
Comme tu dis,
je fais que suivre des comptes de maman avec les photos de leurs enfants, tu vois. Genre c'est hyper paradoxal, mais c'est ok, tu vois.
Et est-ce que toi, parce que soyons honnêtes, deux minutes.
Ouais, vas-y.
Est-ce que toi. T'arrives à ne pas juger ce que tu vois justement dans la façon de
juger
des autres mères.
Complètement.
C'est
je suis qui en fait ?
Ouais.
Non, alors je te jure,
non, mais c'est
je
rassurant.
Te jure sur ma vie et c'est pour ça que je le prône vraiment. Je le prône au max. Je juge pas les gens. Je suis qui ? Je suis pas dans leur vie. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je sais pas ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé. Je suis personne. Donc en fait, j'ai à juger personne. Tu vois ? Pourquoi juger ?
Mais parce qu'en fait, c'est un réflexe tellement ancré dans notre société que je me dis peut-être, moi ça m'arrive pas vu que j'ai pas d'enfant, donc en fait je m'en rends vraiment pas compte quoi, mais j'ai peur peut-être un jour de me dire putain, je vais me retrouver à être la vieille mère.
Non, je crois pas.
Qui est là en train de juger ce que les autres font, alors que voilà, c'est en effet tout le contraire de ce que j'encourage à faire. Donc,
Non, mais en même temps, c'est ok. Enfin, genre, tu vois, par exemple, moi je vais juger un vêtement que j'aime pas sur quelqu'un, j'avoue. Ouais. J'avoue.
Mais tu vas juger le vêtement, pas la personne.
Non, par contre, je vais pas le dire. Je vais être en mode, ah putain, dans ma tête, je vais être en mode, ah ça c'est moche. Ou alors avec des copines avec qui je me sens très très bien, peut-être que je vais laisser échapper le commentaire, tu vois. Et c'est ok. Enfin, c'est ok. Tu peux aussi faire ça avec tes potes. C'est pas la fin du monde. Mais non, je vais pas juger l'éducation de quelqu'un. C'est pas la mienne. C'est pas ma famille. Et ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Genre juste laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur famille. Alors, on s'entend. Dans ce qui est légal.
On s'entend.
Dans ce qui est légal.
L'inceste, enfin, ça se dénonce, oui, s'il vous plaît.
Bien sûr. Oui. C'est dans ce qui est légal et dans ce qui va être bon, et je parle de bon sens, pour les enfants, tu vois. Après, on ne sait jamais ce qui... Enfin, je veux dire, ta vision de ce qui est bon, ce n'est pas forcément ma vision de ce qui est bon, etc. Tu vois, donc c'est OK. Mais je parle de tout ce qui est légal.
Ouais.
Tu vois, ce qui est légal.
Ouais, ouais, ouais,
on ne fait pas de mal à un enfant, point. Sous quelque forme, que ce soit.
Est-ce que toi, t'as eu peur, en apprenant que t'allais être mère, de pas y arriver ? Parce que, de un, les gens n'arrêtaient pas de te dire « t'es jeune, elle est super jeune », etc. De deux, bon, c'est vrai que c'est relativement jeune et que peut-être tu peux toi-même avoir porté ce poids de dire « est-ce que je suis prête ?»
Non, c'est hyper voulu.
Ouais, ok. Et de trois, j'allais dire, c'est vrai que comme tu n'avais plus de maman, je pense que ça doit être quand même difficile de pas avoir un peu, tu vois, de retour d'expérience.
Ouais, ça c'est chiant. Genre, j'adore que le mot que j'ai choisi ce soit chiant. Genre. Ça, c'est chiant. Le fait de ne pas avoir pu me référer à ma mère, c'était chiant. Mais j'ai la chance incroyable d'avoir une belle-mère de ouf.
Ouais.
Et alors, je ne dis pas ça pour saucer mes beaux-parents ou quoi que ce soit. J'ai une belle famille incroyable. Je souhaite à tout le monde de rencontrer une belle famille comme ma belle famille. Parce que quand c'est la merde et que je ne sais pas quoi faire, et c'est la mère de mon mec que j'appelle. Et ça, c'est génial. Genre, il n'y a pas longtemps... j'ai eu une phase un peu où j'ai pas réussi à gérer mes émotions et j'ai crié sur Esmé, ce qui est pas quelque chose qui me ressemble. J'ai donc pleuré par la suite et ensuite j'ai appelé la mère de mon mec. Elle m'a dit mais en fait tout le monde a déjà fait ça, donc c'est pas la fin du monde. Et tu vois, genre elle m'a hyper rassurée en disant que genre une mère qui te dit qu'elle a jamais crié sur son enfant c'est une mytho, enfin des trucs, enfin tu vois. Et encore peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi, mais bon, voilà. Waouh, incroyable,
ça arrive.
Waouh, wow, tu vois. Mais voilà, ça m'est arrivé. C'était pas un moment agréable ni pour elle ni pour moi. Je me suis excusée, je lui ai fait comprendre ce que je vivais à ce moment-là, tu vois. Et c'est la mère de mon mec que j'ai appelée, tu vois. Alors après, est-ce que j'ai eu peur d'être mère ? Pendant la grossesse, pas tant. J'ai eu très très peur de la perdre, mais j'ai pas eu peur d'être mère. Aujourd'hui, est-ce que j'ai peur ? Tous les jours.
Peur pour elle ? Peur de pas bien faire ?
Bon, les deux, hein. Franchement, les deux. Les deux. Et d'après ma psy de ce matin, c'est bon signe. Donc vas-y,
oui, j'imagine.
Tu bois.
Ouais, j'imagine. Ça veut dire que t'en as quelque chose à foutre, quoi, tu vois.
Ah, ouais, c'est clair. Mais ouais, bien sûr. En vrai, j'ai peur tous les jours. J'ai peur qu'il lui arrive des choses tous les jours. J'ai peur. Tu sais, on voit toujours des trucs, même sur les réseaux.
Mais bien sûr.
Et tu dis, waouh, ça pourrait arriver à mon enfant. Oui. Mais non, mais pourquoi j'ai fait un enfant ? Tu vois, t'as ce truc-là. Et ensuite, tu vas dans sa chambre et tu dis, ah, je sais pourquoi j'ai fait un enfant. Elle est quand même exceptionnelle. Et encore une fois, j'ai beaucoup de recul, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai peur tous les jours. Mais j'ai pas eu peur. En fait, quand je suis tombée enceinte, je voulais être enceinte.
Ouais. Donc à partir de là...
J'étais en mode, ok, ma vie, ouais, elle est faite pour que je puisse avoir un enfant maintenant. Mon mec était prêt. Mon mec, lui, il a jamais eu peur. C'était waouh. Vraiment.
Mais tu sais, il y a un TikTok qui passe en ce moment. Je sais pas si tu vas passer la trend derrière chaque... c'est en anglais, mais en gros, c'est derrière chaque femme qui stresse. Et après, il montre le mec. Il y a un mec qui vit toujours tout de manière hyper chill. Et je me dis, mais c'est
ma
injustice,
vie.
Ça. C'est quelle injustice.
C'est ma vie.
Je t'enverrai la traîne, il faut que vous la fassiez. Genre, c'est...
Vraiment.
Je me dis vraiment, mais ouais, moi aussi, mon mec, il est super zen. Il se prend pas la tête, quoi, en fait. Genre, se prendre la tête, je sais pas pourquoi. Alors, tiens, voilà. Ça, c'est la beauté des enfants qu'on entend derrière. Mais se prendre la tête, j'ai l'impression que c'est un trait Et je sais pas, du coup, c'est à chaque fois mon grand débat, est-ce que c'est net, enfin, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est, on nous a conditionnés à nous prendre la tête. Je pense plutôt pour cette option, tu vois, toujours se soucier des autres, etc. Mais ouais, c'est pas fun.
Ah bah c'est une évidence, parce que c'est moi qui retrouve les chaussures quand on les a perdues, tu vois. Mais c'est drôle aussi, ça fait partie du jeu. Mais c'est cool parce que, franchement, j'avoue, moi j'ai de la chance, je suis dans un couple qui est... Je vais pas dire que j'ai pas de charge mentale, mais franchement très très peu, quoi. J'ai vraiment de la chance parce qu'il m'aide pas, il fait son taf, tu vois. Et c'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc il y a encore des choses qui sont hétéronormées parce qu'on a grandi comme ça et qu'on a évolué comme ça, tu vois. Mais par rapport à plein de couples que je peux voir d'extérieur, que je connais dans ma vie, hein, attention, je parle pas de gens que je connais pas sur les réseaux, je fais partie des gens qui ont de la chance, tu vois. Et c'est cool.
Et est-ce que lui, il a déconstruit un peu ou c'est juste son éducation ?
Bon, c'est un peu des deux, franchement. Il y a une partie de déconstruit et il y a aussi une partie de il a une mère incroyable. Voilà, clairement, il a une... je le reglisse. Il a une mère géniale.
Ok.
Il a une famille géniale dans laquelle je me suis sentie très, très bien acceptée.
Et voilà. Une compagne géniale, il faut le dire aussi.
Je suis géniale.
N'est-ce pas ? Disons-le.
Merci.
Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu progresses ?
En travaillant, tous les jours. Tous les jours. J'aime travailler de toute façon. Ça me nourrit, ça me fait grandir, ça m'apprend des choses. Ouais, en travaillant. En apprenant aussi beaucoup.
Est-ce que tu te fixes des objectifs dans le travail ?
J'ai des vision boards.
T'as des vision boards ? Il y a quoi dans ton vision board de 2023 ?
Dans mon vision board, qu'est-ce que je peux dire que j'assume ? Parce qu'il y a des choses qui sont des rêves et que j'ai pas forcément envie de dévoiler, tu vois.
Ok, je respecte.
J'ai mis une photo de tournée, qui est pas du tout ma tournée, mais une esthétique qui me plaisait. Il y a une photo qui explique que j'aimerais moins utiliser mon téléphone. Il y a une photo qui montre de la piscine, parce que j'ai envie de faire plus de piscine cette année, parce que j'ai des problèmes de dos. Voilà, comme ça, les gens auront la réponse. Pourquoi je ne me tiens pas droite ? J'ai des problèmes de dos. Passer plus de temps qualitatif avec mon mec. Il y a aussi passer plus de temps qualitatif avec ma fille, indépendamment du temps qualitatif qu'on passe en famille, tu vois. Il y a un gros panneau avec écrit psychothérapie.
Ah ça, tu l'as honoré ce matin.
Alors, on est en janvier, donc...
On s'excite pas ?
On s'excite pas.
Ok, mais je salue l'effort.
qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis une photo avec un clavier et un texte, parce que j'ai envie d'écrire plus cette année. Et j'ai mis une photo d'une madame qui se réveille, parce que j'ai envie que mes réveils soient plus... pas productifs, parce que je suis pas en mode...
That girl.
Morning glory, that girl, tout ça. Pas du tout, mais j'ai envie de me sentir mieux quand je me réveille, plutôt que de... Genre, je me réveille à mon téléphone et je regarde mon tel. Et j'aimerais bien... Voilà, alors après, je me mets pas de pression, parce que c'est un vision board et c'est ce que j'aimerais atteindre dans l'année, tu vois.
Ou au moins tester, parce que ça se trouve, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout pour toi, mais au moins...
Mais c'est des trucs que j'ai envie de tester voilà, et il y a des trucs que j'espère que je vais réussir et que je serai fière à la fin de l'année de me dire... Ok, et le truc clé des vision boards, c'est pas se dire à la fin du mois de janvier j'ai tout réussi, parce que c'est un vision board de 2023, pas de janvier, tu vois.
Totalement. C'est des directions. Écoute, moi si jamais je peux te conseiller en toute objectivité quelque chose qui a changé mes matinées, c'est d'écouter des podcasts.
Ok.
Parce que du coup tu te réveilles et genre tu commences à réfléchir sur ce qui t'intéresse pendant que je prépare le petit déj. Plutôt que, tu vois, juste répondre à des messages. Pourquoi ?
Parce que j'ai besoin d'écouter la musique quand je me réveille.
Bah j'avoue, t'es une artiste.
Je t'avoue, j'ai tellement besoin d'écouter de la musique.
Ouais.
C'est peut-être le truc qui fait que j'écoute moins de podcasts dans ma vie. J'en écoute parfois, mais tu vois, ça va être genre un truc par... Je veux pas dire par semaine, ce serait mytho, mais genre une fois toutes les 2-3 semaines.
D'accord.
Alors que de la musique, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. J'ai besoin de commencer en écoutant de la musique. Je suis dans ma douche, j'écoute de la musique. Je me prépare, j'écoute de la musique. Je vais dans un taxi, j'écoute de la musique. Si je suis sur mon vélo, j'écoute de la musique. Pas avec un casque, c'est interdit. Mais genre, je mets mon téléphone dans la rue. Et au feu rouge, les gens se foutent de ma gueule, c'est génial. Voilà, tu vois, j'écoute de la musique tout le temps. Je suis venue. J'ai écouté de la musique.
Bon, bah, moi, tu remplaces le mot musique par podcast et t'as ma réalité. Donc, on a bien choisi nos métiers, finalement. On s'est pas trop mal démerdé.
Mais par contre, tu sais quoi, je vais essayer d'écouter, genre, un matin sur deux en podcast, parce que j'arriverai jamais à faire ça tous les jours.
Ouais, voilà. Tu verras si t'y prends goût. Pareil, te force pas, mais si t'y prends goût, moi, franchement, j'avoue que ça m'a changé la vie, au sens propre.
Je comprends.
Mais, back to you. Si tu avais une ressource à nous recommander, Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique. Exceptionnellement pour toi, je fais une exception.
Merci,
il y a une musique, tu vois. Et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
Est-ce que je peux dire Taylor Swift ?
Oui, t'as le droit.
Toute la discographie de Taylor Swift confondue.
Ok.
Voilà, vraiment, je rigole pas. Et j'invite les gens à pas l'écouter juste en écoutant, mais à vraiment, pour ceux qui comprennent l'anglais, lire les paroles. Pour ceux qui comprennent pas, aller sur des sites de traduction, fiables, j'espère. Genre Genius, ils sont très forts pour les traductions, par exemple. Pour vraiment découvrir la façon dont elle écrit, parce que ça... Ça fait du bien au cœur.
Ok, voilà. Génial. Merci pour cette recommandation.
Merci.
Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que ce serait ?
Vanessa Paradis.
Ok.
Appelle-la.
Paris relevé.
Franchement, ce serait trop cool.
Ouais. Elle aurait en effet beaucoup de choses à dire, je pense. Mm-hmm. Et elle a marqué quand même toute une génération, donc... Ok. Je demande parfois aux invités ce qu'ils se diraient à 20 ans. Mais de 1, toi, c'est il n'y a pas si longtemps, et de 2, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc je vais te demander ce que tu diras à Louane à 36 ans.
Dans 10 ans ?
Ouais.
Waouh ! J'espère que t'auras accompli ton vision board 2023 et 2024 et 2025 et jusqu'à tes 36 ans. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Et surtout, j'espère que tu te sentiras bien, que tu te sentiras mieux, que tu seras bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans ta tête, que tes séances de psy tous les lundis matins, ça t'aura vachement aidé. Qu'il y aura toujours autant d'amour dans ta famille et que tu mettras toujours un point d'honneur à prendre soin d'Esmé. Mais ça, en vrai, j'en suis un peu sûre. C'est viscéral. En vrai, je te souhaite d'avoir tout ce que t'as maintenant et te rendre compte, comme aujourd'hui, de la valeur de tout ce que t'as et d'à quel point t'as de la chance d'avoir ce que t'as. Et d'être toujours aussi reconnaissante d'avoir la vie que t'as. Et deviens pas une conne, s'il te plaît. Merci.
Trop bien. Écoute, je vais pouvoir te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Avoir des couilles. Avoir des ovaires.
J'adore. C'est la réponse la plus directe que l'on ait eue à présent. Et nous avons fait 250 épisodes, donc c'est peu dire.
Ça s'appelle être hyperactive.
J'adore. Avoir des ovaires. Trop bien. Est-ce que tu veux développer ?
Ouais, bien sûr, je peux carrément développer si tu veux. C'est genre être capable de prendre le pouvoir, c'est avoir assez de confiance en soi pour agir, avoir du courage. Et je pense que avoir des ovaires, ça résume bien la chose, tu vois. Ouais. Mais dans le sens où c'est genre c'est être capable et à la fois accepter le fait de pas toujours être capable, tu vois. Genre le courage.
Ce dur équilibre entre viser plus haut et savoir accepter ce qu'on a et ne pas forcément forcer le destin, quoi.
Parce que des fois tu sais pas faire quelque chose et c'est la life. Ouais, ça, je sais, tu vois, ça me touche parce que je sais pas danser et je vois que je saurais jamais danser. J'aurais beau avoir pris tous les cours de danse de la terre, ça n'avance pas.
Vision board 2023.
Non, je sais pas danser. Vas-y, viens, je vais.
Mais oui.
On laisse tomber.
Oui, c'est sûr. Et on accepte le fait que, de toute façon,
Vision board 2023 accepte que tu sais pas danser.
Et que t'es déjà tellement bonne pour chanter que ça suffit. Genre, hein, je pense qu'il faut en laisser
aux autres. Mais c'est frustrant parce que t'as envie des fois de danser.
Bah,
et moi,
TikTok,
je me sens trop mal à l'aise dans ma peau pour. Enfin, d'ailleurs, putain, j'ai dansé deux ou trois fois sur TikTok. J'étais là, genre.
Mais c'est dur, hein, parce que, moi, je trouve ça trop bien, parce que ça permet de mettre la lumière sur les danseurs qui étaient franchement un peu oubliés
des réseaux, en général.
Les artistes, en général. Mais bon, ça crée aussi, je pense, des complexes, comme à chaque fois qu'on met quelqu'un en lumière, quoi. Quand toi, tu fais pas partie de ceux... Bon, il s'avère que j'adore danser, donc tu vois, ça va, mais pour le chant, ça peut me le faire de temps en temps, voilà. Ce n'est pas ma compétence première.
Mais alors, tu vois, encore une fois, et vraiment, c'est du foutage de gueule que je dis ça juste après le fait que je viens de dire que j'étais mal à l'aise de danser parce que je pensais que je savais pas danser. Donc je vais me contredire de façon évidente, voilà. On s'en fout que tu saches bien chanter ou pas.
Ah oui.
C'est trop bien de chanter.
Mais franchement, j'avoue, je l'accepte totalement. Et avec ma sœur, big up Camille, parce que je sais qu'elle nous écoute pour le coup.
Salut Camille.
D'ailleurs, parfois, elle sait que... Alors même si j'adore le fait qu'on chante à tue-tête sur n'importe quelle chanson, etc., parfois, elle est tellement emballée qu'en fait, elle va couvrir le son de la musique. Je suis obligée de lui dire, Camille, on n'entend plus.
Genre, mais plus de son.
Laisse-moi écouter.
Non, laisse-la hurler, mais plus de son.
Ouais, t'as raison. Mais je sens qu'on est en train de repartir sur un autre épisode. Donc, je te réinviterai, Louane, promis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tu vois. Psy, puis Louise, ça peut
vraiment
être pas mal. C'est une double thérapie.
Et figure-toi que ça me va.
Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Insta, hein ? Insta et TikTok, watch out for the tornado.
J'adore. Voilà. Et puis ton dernier album, Sentiment.
Exactement.
Que je mettrai aussi dans la barre de description du podcast.
Merci.
Et puis j'espère à très bientôt.
À
lundi prochain. Bisous.
Salut.
J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @watchoutforthetornado et @mybetterself et à envoyer un petit message à Louane si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.